Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici pour cette nouvelle matinale. Donc, je suis accompagné de Magda Hautefeuille pour l'instant. Bonjour Magda.
Bonjour Alexandre.
Voilà, et nous serons théoriquement rejoints aussi par Alice Meunier dans quelques instants. Il y a également Franck à la technique. Bonjour Franck.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Voilà, alors aujourd'hui, un programme qui sera assez intéressant, je pense. On reste sur du niveau national essentiellement. On va commencer avec le bilan de Gabriel Attal à l'éducation nationale, alors qu'il vient de déclarer sa candidature. Bien, Roger Chudeau, député du Rassemblement National Spécialiste de l'Éducation, reviendra sur le bilan de Gabriel Attal à l'Éducation nationale. Il a annoncé en faire sa grande cause. On verra ce qu'il en a été. Et puis à 7h25, ce sera un grand débat, un débat sur la question de l'IA. L'encyclique du pape Magnifica Humanitas vient d'être publiée, et donc Laurent Alexandre sera opposé à Jacques de Guilbon sur justement cette question: quelle place donner à l'humanité, quelle place donner à l'IA. Ensuite, à 8h20, eh bien, il y aura un nouvel entretien. Cette fois-ci, ce sera avec un autre député du Rassemblement National, Mathias Renault, qui nous parlera des ZFE, dont l'annulation a été supprimée par le Conseil constitutionnel. On reviendra sur ce petit scandale démocratique. Et puis enfin, à 8h57, ce sera l'analyse de Xavier Van Liert. Voilà, un très beau programme en perspective, du moins moi je trouve. Donc on vous invite à tout suivre, et tout de suite on commence avec un bulletin d'actualité de Magda Hautefeuille.
Bonjour à tous chers auditeurs, SpaceX s'apprête à franchir un cap historique avec son entrée en bourse prévue en juin. Les estimations les plus sérieuses tablent sur une valorisation comprise entre 1750 et 2000 milliards de dollars. Derrière ce chiffre colossal se cache bien plus qu'une simple société de fusées. C'est l'émergence d'un empire technologique vertical totalement intégré. Avec Starship, SpaceX a révolutionné l'accès à l'espace en rendant les lancements réutilisables et extrêmement peu coûteux. Starlink déploie déjà la plus grande constellation de satellites au monde, générant des revenus massifs et connectant des régions entières de la planète. Prochaine étape logique, des data centers spatiaux en orbite alimentés par l'énergie solaire illimitée, protégés des régulations terrestres tatillonnes et capables de faire tourner l'intelligence artificielle à une échelle industrielle inédite. Et la boucle se referme avec Neuralink, les implants neuronaux qui promettent un jour à l'humain de s'interfacer directement avec cette machine globale. Fusée réutilisable, satellite, connectivité mondiale, puissance de calcul spatial et augmentation cognitive, tout converge chez Musk vers un seul objectif: dominer le futur. Pendant que Bruxelles et Paris s'épuisent à réguler l'IA et à freiner le progrès au nom de la sobriété, les grands gourous de la tech américaine ne s'attachent pas à des limites morales. Ils foncent, mais vers où ?
Et puis il y a eu une rixe géante à La Baule. Est-ce que la violence nantaise a débarqué sur la côte ?
Eh bien, La Baule, station balnéaire chic, a été le théâtre lundi 25 mai d'une rixe massive. Une quarantaine de jeunes venus de Nantes se sont affrontés violemment sur le remblai en plein front de mer, sous les yeux des plagistes. Coups, poursuites et invectives, les vidéos ont tourné en boucle du jamais vu dans cette commune bourgeoise. Selon la police, ces jeunes arrivés de Nantes, ville gangrénée par 29 fusillades depuis janvier liées au narcotrafic, le maire LR Franck Louvrier demande des renforts policiers permanents, car La Baule n'est plus une station saisonnière, mais subit les flux de la métropole toute l'année. 10 nouveaux policiers municipaux vont être recrutés. Le constat est clair, les banlieues exportent leur violence sur la côte. Résultat, des décennies de laxisme, d'immigration incontrôlée et de justice absente dans les grandes villes de gauche. Même les stations tranquilles ne sont plus épargnées. Triste réveil pour ceux qui pensaient échapper au chaos qu'ils ont contribué à créer. Nous vous en parlerons parlerons dans un instant dans le décryptage.
Et puis le Sénat réagit enfin au scandale du périscolaire.
Et oui, le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi visant à renforcer les contrôles sur les animateurs, enseignants ou encadrants au contact d'enfants après le scandale des violences sexuelles dans le périscolaire parisien. Le texte prévoit notamment un contrôle renforcé des antécédents judiciaires avant les recrutements, une mesure réclamée depuis des mois par les familles, alors que des dizaines d'enquêtes ont déjà été ouvertes à Paris et que 78 agents municipaux ont été suspendus depuis le début de l'année. Au même moment, un animateur de 36 ans comparaît devant la justice pour des agressions sexuelles sur 9 enfants âgés de 3 à 5 ans dans une école parisienne. Les familles ont refusé le huis clos, estimant que la honte doit changer de camp dans le sillage du procès Pellico. Alexandre Allégret-Pilon nous confia sur Radio Courtoisie déposer lui aussi une loi. Le plus glaçant dans cette affaire, c'est peut-être qu'il a fallu un scandale d'une telle ampleur pour commencer seulement à vérifier sérieusement qui encadre nos enfants. Écoutons Michel Hamas réagir à cela.
C'est l'archétype de l'effet d'annonce. Normalement, on doit vérifier, lorsque quelqu'un va travailler dans l'enfance, son fichier FIJAS, c'est-à-dire le fichier de toutes les infractions qu'il a pu commettre, notamment en matière sexuelle, de violence, tout ce qui est l'enfance. Le matériel est déjà en place, seulement personne ne s'en sert. C'est-à-dire qu'on devrait aujourd'hui savoir dans n'importe quelle crèche, dans n'importe quelle école, dans n'importe quel foyer de l'enfance placé, que les gens ne sont surtout pas condamnés. Seulement, ils ne vérifient pas, ils ne font pas les vérifications nécessaires. Donc, ce qui existe, on s'en sert pas. Et là, on va créer encore un moulin à vent dans lequel on s'engouffre, parce que ça fait plaisir à tout le monde d'en parler. Mais dans la réalité, tout simplement, tout existe déjà, mais personne ne s'en sert.
C'était Michel Hamas, avocat au barreau de Marseille.
Et vous nous faites le point sur deux procès explosifs en France.
Exactement. D'abord, l'affaire Lafarge. Les deux anciens dirigeants du cimentier français, condamnés en avril pour financement du terrorisme en Syrie, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. La justice leur reproche d'avoir versé plusieurs millions d'euros à des groupes djihadistes, dont l'État islamique, pour maintenir l'activité d'une cimenterie en Syrie entre 2013 et 2014. Bruno Lafont, ancien PDG du groupe, avait pourtant été condamné à 6 ans de prison ferme, mais la cour d'appel estime désormais que leur détention n'était pas indispensable. Et puis, dans le procès du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, la tension monte entre anciens proches. L'avocat de Claude Guéant accuse désormais Nicolas Sarkozy de cruauté et de cynisme, dénonçant une stratégie consistant à faire porter la responsabilité sur son ancien bras droit, aujourd'hui gravement malade. Deux affaires différentes, mais qui montrent encore une fois un système où les grandes responsabilités politiques ou économiques semblent toujours finir diluées.
Et puis, vous nous parlez du sport.
Oui, à Roland-Garros, Elsa Jacquemot et Moïse Kouamé sont nos premiers Français à se qualifier au deuxième tour pour le tournoi de cette année.
Voilà, et puis pour ce qui est de la météo alors?
Eh bien aujourd'hui encore du grand soleil et forte chaleur sur l'ensemble du pays avec une vigilance orange canicule sur plusieurs départements. Seules les côtes de la Manche auront une légère baisse des températures. Côté température, nous pourrons relever ce matin 17 à Lille, 18 au Mans et 20 à Paris. Et nous célébrons ce 27 mai Saint-Augustin de Canterbury et Saint-Jules.
Merci Magda.
Ligne droite.
Mais on vous ne lâche pas, car vous décryptez désormais.
Oui, exactement. Alors, chers auditeurs, si vous aussi, vous êtes friands d'océan, lorsque vous pensez à votre destination pour vos prochaines vacances d'été, il vous arrive peut-être de penser à ces stations balnéaires du littoral français, ayant pour réputation d'être sécurisées, animées pour les enfants, mais à la fois paisibles pour les parents. Alors, si le fruit de votre travail, ou plutôt ce que l'État ne vous prend pas sur votre salaire, vous permet de vous faire plaisir, vous pouvez éventuellement penser à la Bolescu Black. Oui, la Bolescu Black, cette station balnéaire chic, idéale pour les vacances en famille, prisée par la bourgeoisie bretonne et parisienne, une ville que l'on espérait voir rester intacte tant les endroits tranquilles se perdent. Et pourtant, que nenni, il y a depuis plusieurs jours, des vidéos d'affrontements et d'incivilités entre racailles circulent sur les réseaux sociaux. Et dans les médias, des images qui viennent casser la carte postale. Mais alors, comment cet havre de paix a-t-il pu lui aussi être rattrapé par la réalité? Eh bien, figurez-vous que le maire LR Franck Louvrier ne semble pas non plus avoir la réponse, puisqu'il a seulement su déclarer la délinquance explose à Nantes et nous en avons la répercussion à la boule. Le constat est posé, mais comme toujours, la réponse politique est très timide. Renforcer les effectifs de police municipale et réclamer davantage de présence de la police nationale. Le problème, c'est qu'à la boule, Tout le monde sait qu'on a longtemps cru pouvoir tenir cette réalité à distance, tant il vaut mieux voter la mollesse pour se donner bonne conscience. Bah oui, il fallait préserver la vitrine, garder le front de mer intact et surtout repousser les troubles ailleurs, vers les petites communes voisines. Tant que les prétendues bandes de jeunes restaient loin des quartiers chics, tout allait bien. Et cette logique allait parfois plus loin encore. Les arrivées estivales étaient observées de près. Certains publics étaient clairement moins désirés que d'autres. Et tout le monde sait pourquoi cette banlieue n'avait pas vocation à se mélanger à l'image que la station voulait renvoyer. L'entre-soi gauche caviar devait perdurer. Par ailleurs, comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Petit rappel, en décembre 2022, Franck Louvrier expliquait dans le journal du dimanche qu'un rapprochement entre LR et RN signerait selon lui la fin des Républicains. Quelques jours plus tard, il plaidait dans le Parisien pour un contrat de gouvernement entre LR et Emmanuel Macron. Autrement dit, maintenir le cordon sanitaire avec le RN et préférer l'accord avec le pouvoir en place au détriment de la sécurité et de la tranquillité des Français. Et pendant ce temps, Nantes, à quelques kilomètres de la Baule, est devenue un symbole des manquements sécuritaires du Grand Ouest, tant le problème n'est pas traité à la source puisque le ventre mou n'en est pas capable, ou plutôt ne le souhaite pas. Mais c'est ce qui arrive quand le réel nous saute à la face, et c'est surtout l'hypocrisie gauchiste et centriste des beaux quartiers. On fait payer la politique de la bien-pensance aux autres et on s'en émeut lorsque ça nous revient à soi, c'est l'effet boomerang. Mais bon, à force, espérons peut-être qu'ils rangeront définitivement leur lâcheté et leur politiquement correct au placard, parce qu'en attendant, les Français vont devoir tripler le budget en plage privée pour espérer une once de tranquillité.
Merci beaucoup, Magda.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons parler de Gabriel Attal. Nous allons parler de Gabriel Attal car il a déclaré sa candidature officiellement eh bien, ce week-end pour l'élection présidentielle. Alors la question c'est évidemment, Gabriel Attal nous explique que la grande cause de son quinquennat serait l'éducation. Il a été effectivement ministre de l'éducation nationale, on le rappelle, entre 2023 et 2024. Il a également été premier ministre. A-t-il mis ce sujet eh bien, sur le devant de la scène? A-t-il eu de bons résultats? C'est la question que nous allons nous poser avec Roger Chudeau, député du Loir-et-Cher, spécialiste des questions d'éducation pour le Rassemblement National. Bonjour Roger Chudeau.
Bonjour monsieur.
Alors, la première question que je vais vous poser déjà, c'est peut-être plus sur le bilan d'Emmanuel Macron en général. On connaît eh bien, la chute qu'on a eue au classement PISA ces dernières années. Et surtout, on peut remarquer quelque chose, c'est que alors que effectivement la question de l'éducation a souvent été mise au centre dans les discours, on a quand même eu 8 ministres de l'éducation nationale en 9 ans, plus particulièrement depuis 2022 où tout s'accélère. Pour rappel, hein, on a eu Pape Ndiaye, Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra, Nicole Belloubet, Anne Jeuntet, Elisabeth Borne, Édouard Geoffrey. Ça fait quand même un sacré paquet de ministres. Est-ce que finalement, depuis Jean-Michel Blanquer, on n'est pas dans une forme d'instabilité sur la question de l'éducation?
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. S'il y a bien un ministère qui aurait besoin de stabilité et de continuité, c'est le ministère de l'Éducation nationale, puisque le temps éducatif est le temps long. N'est-ce pas ? Contrairement au temps politique, qui est un temps court et haché. Donc là, effectivement, le bilan d'Emmanuel Macron, qui avait fait qui avait placé dans ces deux quinquennats la jeunesse au centre de ses préoccupations et de sa politique, ce bilan est désastreux. Je veux dire, tout le monde s'accorde à dire, gauche, droite, centre, bref, tout le monde s'accorde à dire que l'école française, que l'école de France est en plein déclin, qu'elle est en train de s'effondrer sur elle-même, que tout va à volo. Et ceci est le résultat, non seulement de cette instabilité ministérielle, qui n'en est au fond qu'un symptôme, mais surtout de l'incohérence totale des mesures qui ont été prises et de l'absence totale, mais vraiment radicale, de vision pour l'école de France.
Alors, ce qui est assez effectivement intéressant à ce titre, c'est que ce qu'on peut observer, c'est que Gabriel Attal, quand il arrive au ministère de l'Éducation nationale, il remplace Pape Ndiaye. Pape Ndiaye, donc, qui est évidemment largement critiqué pour ses positions assez à gauche sur bien des sujets. Et alors, une des premières choses que fait Gabriel Attal pour la rentrée, c'est par exemple interdire l'abaya et le camis. Alors, mesure plutôt positive, finalement, en termes de laïcité.
Certes, oui. Enfin, écoutez, Gabriel Attal, c'est avant tout un communicant. C'est un animal politique, n'est-ce pas, qui a bien compris que n'existe aux yeux des gens que ce qui paraît exister Et ce qui paraît exister, c'est ce que définit le discours politique, la communication politique. Ça, il a bien compris, et il ne fait que cela, au fond. Hein. Gabriel Attal annonce, dans l'Aubrac, je crois, sa candidature à l'élection présidentielle. Bon, ça fait sourire, parce que franchement, vouloir imiter Jacques Chirac, tapotant le cul des vaches dans l'Aubrac, quand on vient des beaux quartiers de Paris et qu'on n'a pas la moindre idée de ce qu'est un agriculteur ou l'agriculture, on sent bien que c'est de la com' à l'état pur. Bon. Il en profite pour annoncer que l'école sera sa priorité des priorités. Bon, très bien. Alors, tout le monde considère maintenant que l'école est la priorité des priorités, après l'avoir détruite ou abandonnée à elle-même. Comment s'appelle-t-il ? Édouard Philippe a dit la même chose, et depuis longtemps. Bruno Retailleau aussi, etc. Bon. Tous ces gens-là courent après l'opinion publique. Et le bilan, il faut regarder les choses objectivement. Gabriel Attal a été ministre 6 mois. Enfin, son bilan, c'est rien, à part des annonces. Alors, sur l'abaïa, je réponds à la question. Sur l'abaïa, c'était très bien. Sauf que la circulaire sur l'abaïa n'est que l'application de la loi de 2004, c'est tout. C'est une circulaire d'application. Mais vous avez raison. Par rapport à Papendiaï, qui est un wokiste distingué, si j'ose dire, il y a eu un changement et ça a porté dans l'opinion publique. Immédiatement, Gabriel Attal s'est construit, là, par cette simple mesure administrative, une image de... d'homme décidé, de réformateur, de défenseur de la laïcité, etc. Bon, écoutez, c'est très bien, c'est un point de marqué. D'ailleurs, nous demandions évidemment depuis très longtemps cette circulaire interdisant la baïa et d'ailleurs tous les signes pouvant rappeler quelque religion que ce soit dans l'enseignement public. Bon, on ne peut pas dénier à M. Attal un certain sens politique. Mais enfin, bon, ça ne fait pas une politique éducative, ça, si vous voulez. Mmh. C'est juste, au fond... presque du maintien de l'ordre.
Et parce qu'en fait, on discutait hier à cette antenne également du film L'Abandon, donc sur la mort de Samuel Paty. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'apparemment, au sein de l'éducation nationale, il y a quand même eu des progrès sur ces 6 dernières années. Cela étant, on sait que, aussi que, eh bien, on est quand même toujours un peu soumis à ce pas de vague, à cette crainte d'être taxé d'extrême droite dans l'éducation nationale. Là-dessus, la mentalité de fond n'a pas forcément changé.
Non, bien sûr, moi je ne vois pas de progrès, franchement, ni dans la... Enfin, écoutez, Gabriel Attal a décrété, si je puis dire, le choc des savoirs, quand il était Premier ministre, le choc...
On va y revenir, oui.
Bon, ce sont des phrases creuses. Alors, évidemment, ce sont des slogans publicitaires, c'est du packaging, comme disent les anglo-saxons. Donc, là-dessus, en termes de formules, tout va très bien, sauf que dans la réalité, il se passe absolument rien. En quoi la violence scolaire a-t-elle baissé depuis le passage de Gabriel Attal jusqu'à aujourd'hui? En rien, au contraire. Il y a pratiquement tous les jours des incidents, des menaces. On trouve des couteaux dans les sacs des élèves, des professeurs sont menacés, poignardés, à plusieurs reprises. On a eu ce genre d'incident, n'est-ce pas? Donc le choc d'autorité n'a absolument rien produit. Mmh. Quant au choc des savoirs, alors là...
Bah alors justement, revenons-en au choc des savoirs. Mmh. Ça, pour le coup, c'est la grande formule, pour le coup, de Gabriel Attal. Donc il part du constat qu'effectivement les résultats baissent. Et donc, pour le coup, il dit que voilà, il va faire un nouveau programme, prendre la méthode de Singapour, voilà, et qui va en réalité... De rendre le brevet obligatoire pour accéder au lycée. Est-ce que tout ça, toutes ces nouvelles exigences, entre guillemets, ont eu lieu?
Non, bien sûr. Rien de tout ça n'existe, hein, franchement. Ouais. La méthode de Singapour, c'est très bien. Pour les Singapouriens, ça n'a pas été adapté en France, d'ailleurs, ni étudié en France par le ministère. Il devait y avoir des groupes de niveau qui ensuite, pour des raisons de politiquement correctes, ont été rebaptisés groupe de besoin. Mmh. Bon, un groupe de niveau, un groupe de besoin, c'est un groupe d'élèves qui, au sein d'une classe, enfin, on procède, si vous voulez, au regroupement des élèves en fonction de leur niveau, de leur capacité, etc., de manière à pouvoir traiter ces difficultés correctement. Bon, c'est une formule qui existe honnêtement depuis au moins 30 ans. Hein. Bon, la gauche a trouvé ça épouvantable, d'ailleurs. Elle a fini par avoir la peau, si je puis dire, de ces groupes de niveau, puisqu'ils sont... Maintenant, ils sont devenus facultatifs, c'est-à-dire, en fait, ils ne sont pas appliqués. Oui, bien sûr. Mmh. Et donc, l'idée était plutôt bonne, en effet, mais elle a été abandonnée en race campagne par les nombreux successeurs de Gabriel Attal. L'examen d'entrée en seconde, qui est une mesure RN, a disparu du paysage, on n'en parle plus, n'est-ce pas, il est terminé. Allons sur le fond, si vous voulez. Gabriel Attal s'est rendu compte, lorsque les résultats de PISA ont été publiés, que le système éducatif était en train de dégringoler, hein, de sombrer même. Bien, il s'est produit la même chose en Allemagne il y a quelques années. C'était le choc PISA dans les années 2000. Mmh. Les Allemands ont profondément réformé leur système éducatif. Nous n'avons rien fait. Attal n'a rien fait. Parce que l'origine de la dégradation des résultats de nos élèves est beaucoup plus profonde que la simple existence ou non d'un groupe de groupe de niveau ou d'un examen de passage. C'est beaucoup plus profond. C'est le collège unique qui dysfonctionne totalement. Mmh. Il dysfonctionne totalement parce qu'il est basé sur des postulats qui sont faux. C'est-à-dire qu'on pense que les professeurs peuvent faire de la pédagogie individualisée et différenciée dans une classe de 24, 25 ou 30 élèves. Ça n'est pas possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a baissé le niveau, n'est-ce pas ? Et évidemment, quand on baisse le niveau et qu'ensuite on passe des tests internationaux, ben, on n'est pas au niveau. C'est aussi simple que ça. Mmh. Donc, il faut réformer le collège, c'est-à-dire faire des établissements autonomes. Il faut réformer la pédagogie, revoir les programmes. Là aussi, il était question de revoir les programmes. Attal avait annoncé oui. ça. Bon, c'est en cours, mais enfin, c'est en cours. C'est fait mollement.
Et puis, dans tous les cas, ce ne sera pas fait d'ici la fin de l'année. D'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron.
Bien sûr que non. Ouais. Tout cela, c'est de la poudre aux yeux.
Mais en fait, ce qui est assez fascinant dans ce que vous décrivez, c'est qu'effectivement, Gabriel Attal, à part, mettons de côté le sujet de l'Abaïa, où là, il y a eu du résultat concret, mais sur tout le reste, effectivement, c'est énormément d'annonces. Alors que pour le coup, d'ailleurs, on en parlera dans quelques instants sans doute, mais à l'heure de l'intelligence artificielle, vous travaillez justement sur ce sujet au niveau de l'éducation. À l'heure où effectivement, on a cette baisse, cette chute drastique du niveau, on a l'impression qu'il faudrait, pour le coup, vraiment un grand chantier qui dure, mais même sur plus que 5 ans, en fait. Là, on a l'impression que c'est du travail qui doit se faire sur des années pour des décennies.
Tout à fait, vous avez raison. L'éducation nationale, c'est une sorte de cathédrale incendiée, pour reprendre une image que tout le monde comprendra. Il faudra des années pour la reconstruire, mais nous, au Rassemblement National, nous avons un projet, un programme qui permettra, en agissant sur certains leviers, déjà d'obtenir des résultats durables, n'est-ce pas ? Par exemple, nous allons reprendre complètement la formation initiale du corps enseignant, qui actuellement est confié à l'université avec des résultats lamentables, puisque, un, le niveau académique a chuté, et deux, la préparation à l'emploi est insuffisante de l'aveu même des jeunes professeurs, par exemple. C'est un exemple. Nous allons, comme je vous le disais à l'instant, réformer le collège, supprimer le collège unique, faire un collège modulaire, c'est-à-dire qui permettent aux élèves, en fonction de leur potentiel, de leur capacité, de leur souhait, de leur désir d'orientation, de trouver chaussures à leurs pieds.
Mais là, on vous accuse d'être contre, c'est ce que dit la gauche à chaque fois, c'est que vous accuse d'être contre les universités, d'être contre l'enseignement supérieur, justement, en voulant orienter les jeunes, dès le début, vers des métiers sans éducation. En fait, vous seriez contre l'éducation, justement.
Oui, écoutez, franchement, dire que nous serions contre l'université n'a aucun sens. Je veux dire, l'université française existe, elle est efficace quand elle sait s'organiser et quand elle agit dans l'intérêt national, elle est inefficace lorsqu'elle fait de la politique, de l'idéologie, etc. Donc ça, c'est un autre sujet. Nous pensons également qu'il faudra revoir un certain nombre de choses dans l'enseignement supérieur et la recherche, incontestablement. Mais enfin, bon, nous accuser d'être anti-université, ça, c'est absolument grotesque. Non. Là, en l'occurrence, je parlais de la formation initiale des professeurs qui est assurée par les instituts nationaux supérieurs du professorat de l'éducation, qui sont des instituts universitaires. Et nous voyons le résultat. Oui. D'ailleurs, la dernière réforme en date sur la formation initiale des professeurs, qui conduit à les recruter à Bac plus 3, ne nous satisfait absolument pas. On a encore baissé de niveau.
Justement, alors un point qui est lié à ça, c'est que Gabriel Attal a été largement critiqué pour avoir baissé le budget de l'éducation nationale. Vous souhaitez quand même faire des économies au niveau du budget global. Est-ce que l'éducation nationale, c'est un point sur lequel vous mettriez plus de fonds ?
Pour nous, l'éducation nationale est une priorité, mais c'est pas un mot. C'est-à-dire, c'est une priorité dans la mesure où ce qui va se passer dans l'école ces prochaines années engage le pays pour plusieurs décennies. C'est-à-dire un élève qui rentre à l'école aujourd'hui, il sera opérateur, il sera citoyen, il sera agent économique, il sera engagé dans la vie publique dans 20 ans ou 30 ans. Et donc c'est un investissement, c'est pas une dépense l'école, c'est un investissement. Certes, c'est un investissement lourd, mais c'est un investissement d'avenir. Donc nous n'avons aucune espèce d'intention de raboter, de quoi que ce soit, comme le prévoit déjà M. Geffray, n'est-ce pas, en se disant chic, il y aura moins d'élèves, donc il y aura moins de profs, on va pouvoir baisser le budget. Ce n'est pas notre conception des choses. Il y aura moins d'élèves, c'est certain, et ça, c'est une question démographique et enfin, plus profonde qu'on l'imagine.
Et qui se travaille encore plus sur long terme, quelque part.
Voilà, exactement, hein, mais avant de remonter cette pente-là, il faudra plusieurs décennies. Mais il n'y a pas d'effet d'aubaine, il ne s'agit pas que les budgétaires se frottent la main en disant « chic, 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 on va pouvoir supprimer des postes ». C'est pas ça. Nous allons calibrer les choses correctement et nous allons utiliser les marges de manœuvre que nous donne précisément cette baisse démographique pour faire de la qualité. Mmh. Et on ne fait pas de la qualité uniquement en rajoutant des professeurs. On fait de la qualité en organisant différemment l'éducation. Parce que c'est son organisation qui est en cause. C'est le système qui dysfonctionne.
Merci beaucoup Roger Chulot d'avoir été avec nous ce matin, à la fois eh bien, pour rappeler l'importance de ce chantier, et puis d'un autre côté effectivement pour rappeler quel est le bilan de Gabriel Attal, comme dirait Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Exactement. Voilà, sans doute. Voilà. Mais merci d'avoir été avec nous ce matin, et puis on vous retrouvera sans doute effectivement d'ici peut-être fin juin pour parler de cette mission sur l'IA, peut-être un peu plus en détail. Avec merci plaisir. Roger Chulot, à bientôt.
Avec plaisir, merci beaucoup, au revoir.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Il est 7h25 et tout de suite, eh bien, avant la chronique de Philippe Vardon, eh bien, nous allons passer au grand entretien jusqu'à 8h15. L'IA face à l'humanité, que retenir de l'encyclique de Léon XIV ?
Ligne Droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, nous recevons deux invités aux idées assez opposées, mais qui ont tous deux travaillé sur le sujet de l'intelligence artificielle, chacun avec son style et son, on va dire, sa spécialité. Alors, pour donner un petit peu de contexte, avant-hier était publié Magnifica Humanitas, donc la nouvelle encyclique du pape Léon XIV, sa première, après seulement un an de pontificat, et dans cette encyclique, eh bien, il revient très largement sur les questions d'intelligence artificielle. Nous recevons donc pour parler de ce sujet tout d'abord Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien neurobiologiste fondateur de Doctissimo et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. Mais encore plus récemment, vous venez de publier un livre également, Vivre 1000 ans quand l'IA règne et la mort recule, rêve ou cauchemar. C'est un livre que vous avez coécrit avec Alexandre Tsikopoulos. Je reçois également pour cet entretien Jacques de Guilbon. Bonjour Jacques de Guilbon.
Bonjour Alexandre.
Alors, vous êtes éditeur de la 11e heure, vous êtes également essayiste et vous publiez à vos éditions donc de la 11e heure Magnifica Humanitas, précédé d'une préface donc de Monseigneur Le Borgne, évêque d'Arras, commentée par Jean-Pierre Dupuis et Gauthier Besse. Alors, ma première question ira vers vous, Jacques, étant donné que vous avez publié cette encyclique. Donc le sujet, d'une certaine façon, c'est un petit peu l'opposition ou alors la complémentarité entre l'homme et la technique, et plus particulièrement l'intelligence artificielle. Déjà, pourquoi cette encyclique publiée au bout de seulement un an de pontificat ? Est-ce que il y avait une forme d'urgence d'une parole d'évangile quelque part à ce sujet ?
Oui, évidemment, il y a une forme d'urgence. Je tiens juste à préciser deux choses avant. Je ne prétends pas avoir travaillé moi-même sur l'IA comme Laurent Alexandre a pu le faire plus précisément. Moi, je suis un citoyen et un catholique et un éditeur qui a un avis sur l'IA et qui a publié des livres sur le sujet. Je ne suis pas moi-même un spécialiste. Voilà. Le pape a pris le temps de publier cette encyclique, ça fait longtemps qu'il en parle, ça fait à peine un an qu'il est arrivé, mais pas depuis le début de son pontificat, il a voulu s'emparer de ce sujet, et évidemment il y a une urgence, on lui a même peut-être reproché d'avoir mis autant de temps, même si c'est peu de temps en fait en soi, à publier cette encyclique, et c'est évidemment le grand sujet de l'époque, le grand sujet parce que ça englobe toute la question de l'humanité, de la société et évidemment du travail et de tout ce qui en découle. Et c'est dans ce sens-là que le pape s'est cru autorisé, s'inscrivant dans les pas de Léon XIII, son prédécesseur, et de tous les papes qui, depuis Léon XIII, donc depuis la fin du XIXe siècle, ont créé ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, s'est cru autorisé à parler de l'IA dans le sens où elle va toucher à la personne humaine, comme il dit en général, et notamment ses conditions d'existence, d'exercice du travail, aux questions du capital, de la pauvreté et de toutes les relations de l'humanité et du globe en général, en fait. Voilà. Ouais. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y avait une urgence pour que l'Église, en tout cas de son point de vue à elle, qui se pense experte en humanité, comme disait Paul VI, s'empare de cette question.
Laurent Alexandre, de votre côté, je crois que vous avez aussi pris connaissance de cette encyclique. Alors récemment, on a appris que les dirigeants d'Anthropic AI ont demandé une audience au pape justement pour avoir une sorte d'éclairage moral au sujet de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pensez de la voix du Saint-Siège, de Léon XIV plus précisément, au sujet de l'intelligence artificielle ?
Alors personnellement, je ne suis pas... je ne suis pas croyant, je suis athée, mais je pense que le pape est tout à fait dans son bon droit d'ouvrir le chantier de l'intelligence artificielle qui pose des questions énormes pour l'humanité. La position du Saint-Siège et du Saint-Père est intéressante parce qu'il aborde une grande partie des conséquences de l'intelligence artificielle sur l'humanité. Le moment qui a été choisi par le pape n'est pas anodin. 2026 est l'année où l'intelligence artificielle aura dépassé l'intelligence humaine dans la quasi-totalité des domaines cognitifs. C'est donc un moment de basculement. Et donc l'ouverture de ce chantier spirituel sur les limites de l'intelligence artificielle, sur la définition de la dignité à l'ère de l'intelligence artificielle, sont fondamentaux. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que la société commence à être débordée par les conséquences de l'intelligence artificielle, conséquences éducatives. Le système éducatif n'a aucun sens construit comme il l'est aujourd'hui au niveau des universités, le système de santé, le système de politique, le système même d'emploi et d'organisation économique. La totalité des facettes de la vie sociale sont impactées par l'intelligence artificielle et donc il y a urgence à théoriser les relations entre la machine et l'homme. Et bien sûr, à définir ce qui fonde la dignité. Parce que la position du Saint-Père est que même si l'intelligence artificielle dépasse cognitivement l'homme, la dignité reste limitée à l'homme. Et ce qui fonde cette dignité, ça n'est pas les compétences humaines, et notamment les compétences cognitives, mais c'est la caractéristique propre de l'homme, créée à l'image de Dieu, selon la doctrine de l'Église.
Oui, alors justement, Jacques de Guilbon, ce qu'on peut observer dans cette encyclique, c'est que, comme le dit Laurent Alexandre, le pape va essayer de mettre en lumière la valeur de l'humanité par rapport presque à l'intelligence artificielle. C'est quand même un petit peu étonnant comme démarche, c'est presque à rebours de ce qui, de ce que la logique voudrait. C'est-à-dire que part du postulat que, effectivement, comme le disait Laurent Alexandre, l'intelligence artificielle, en termes de performance pure, est en train de dépasser l'humain dans tous les domaines, et que désormais, il faut trouver la valeur de l'humanité ailleurs que dans cette performance.
Oui, non, mais pour d'un point de vue catholique, chrétien, c'est pas aussi paradoxal que vous semblez le penser. C'est-à-dire que si vous relisez ne serait-ce que Pascal, par exemple, qui n'est pas un docteur de l'Église, mais qui était quand même un grand chrétien, qui parle des trois ordres. Vous avez l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit et l'ordre de la grâce, qui est un ordre infiniment plus éloigné de l'esprit que l'esprit de la chair, etc. Donc il y a déjà cet ordre, en fait, pensé par le catholicisme de l'humain dans sa personne, parce que ce concept de personne est assez essentiel, et dans sa dignité, qui ne sont pas liées aux performances strictes de son intelligence. En fait, ce n'est pas parce que vous êtes le plus fort en calcul que vous êtes le plus humain et le plus sauvé et le plus à l'image de Dieu. C'est une de vos caractéristiques, mais ce n'est évidemment pas la seule. Et donc, c'est assez logique que l'Église s'empare de ce sujet dans le sens où nous risquons, si l'intelligence artificielle continue de se développer ainsi et d'envahir tous les champs de notre existence, sans qu'on y pose de bornes ou de limites, sans qu'on l'aiguille, nous risquons de devenir nous-mêmes... prendre une image que prennent certains technophobes, les chimpanzés du futur, c'est-à-dire les esclaves nous-mêmes de cette intelligence artificielle ou son bétail ou ses animaux domestiques qu'elle sera capable de guider. C'est ça que veut éviter le pape. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, puisque vous parliez des dirigeants d'Anthropic, mais ils ont fait plus que demander une audience au pape. Chrysola, qui est un des cofondateurs d'Anthropic, était présent à la conférence de presse de présentation de Magnificat Humanitas aux côtés du pape. Il a parlé, il a expliqué qu'il pensait, lui, avec d'autres dans ses rois de la tech, qu'on était à un carrefour et que l'intelligence artificielle pouvait partir dans un sens où elle serait plus maîtrisée, où elle deviendrait nocive, et que c'est ça qu'il fallait essayer d'éviter. Donc ils sont, dans ce sens-là, dans la même lignée que le pape et que l'Église catholique en général, très inquiets une partie de ces gens-là, notamment ceux d'Anthropique, très inquiets de ce que pourrait devenir une IA qui ne serait plus maîtrisée, qui dépasserait même ses concepteurs et ses inventeurs.
Et alors Laurent Alexandre, vous pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est que alors que le pape, lui pour le coup, va largement évoquer la nécessité de réguler d'une certaine façon eh bien, l'intelligence artificielle, de lui mettre des barrières, que ce soit au niveau étatique ou que ce soit au niveau même des entrepreneurs eux-mêmes, vous, on a l'impression dans votre discours en général que il faut laisser l'intelligence artificielle avancer de son côté, que d'une certaine façon il ne sert à rien de vouloir la freiner et d'aller contre la marche du monde. Est-ce que ça signifie que finalement il faut laisser l'intelligence artificielle se développer au maximum et nous développer nous-mêmes au maximum au travers de l'intelligence artificielle?
C'est une question difficile. Et si vous prenez la position de Donald Trump ces dernières semaines, on voit bien à quel point il est difficile de freiner et de réguler l'intelligence artificielle. Trump, quand il est arrivé au pouvoir pour la deuxième fois, avait supprimé le décret, l'executive order de Biden, qui contrôlait les intelligences artificielles les plus puissantes. Et devant les progrès très importants, et puis le fait que sa base MAGA commence à beaucoup s'inquiéter des progrès de l'intelligence artificielle, il a décidé de signer un nouvel executive order, un nouveau décret pour limiter les IA les plus intelligentes. Un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Biden, il était prévu que lorsque un des grandes sociétés d'intelligence artificielle sortait un modèle extrêmement puissant, elle devait le présenter à une agence gouvernementale 90 jours avant sa release grand public. Et puis, une partie de l'entourage de Trump lui a expliqué que si l'on freine l'intelligence artificielle, on va se retrouver dans une situation dangereuse géopolitiquement, puisque la Chine deviendra numéro un mondial de l'intelligence artificielle, alors que les États-Unis sont toujours leaders. Donc, rien que pour des raisons géopolitiques, il est assez compliqué de freiner le périmètre de l'intelligence artificielle. Je remarque qu'il y a quelques semaines, le pape lui-même, Léon XIV, s'est ému du fait que les prêtres et les évêques écrivaient leurs sermons, leurs homélies avec ChatGPT et ses équivalents, et il avait demandé à ses collaborateurs, en quelque sorte, dans la hiérarchie de l'Église, d'arrêter d'écrire leur sermon avec l'intelligence artificielle. Même le pape est dépassé par la déferlante de l'intelligence artificielle qui prend une place de plus en plus grande. On aurait pu imaginer que l'Église serait un refuge par rapport à l'intelligence artificielle et que les prêtres continueraient à exprimer leurs affects, leurs sentiments directement et non pas de recopier ce que ChatGPT a écrit.
Mais vous Laurent Alexandre, d'une certaine façon, vous êtes quand même favorable dans ce qu'on comprend quand même à ce que finalement que l'humain s'augmente au travers de l'intelligence artificielle et que finalement en fait on a l'impression que dans le modèle de société que vous dessinez, l'intelligence artificielle serait presque au centre au détriment de l'être humain.
Non, mais au centre de la société demain, il y aura l'intelligence artificielle et non l'humain. Dans une entreprise, si vous mettez l'humain au cœur de l'entreprise, vous allez déposer le bilan. L'intelligence artificielle est tellement plus performante, et ce sera encore pire dans le futur, et tellement moins chère que l'intelligence humaine, qu'il est extrêmement difficile de construire une institution dans laquelle on met l'humain en son centre. Donc, et c'est un peu l'angle mort d'ailleurs de l'encyclique. Il ne va pas être possible, il ne va pas être tenable de ne pas augmenter l'homme. Si nous n'augmentons pas l'homme sur le plan cognitif, le décalage entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine sera trop important. Il ne faut pas commettre l'erreur de penser que l'intelligence artificielle est un outil. L'intelligence artificielle n'est pas un outil, c'est une nouvelle espèce intelligente. Et comme Geoffrey Hinton, le prix Nobel de physique 2024, est l'inventeur des réseaux de neurones profonds qui sont à la base de toutes les intelligences artificielles modernes, le déclarait au Financial Times, nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente sur Terre. Nous sommes la deuxième espèce la plus intelligente derrière l'intelligence artificielle. Donc, si on ne veut pas être dépassé par l'intelligence artificielle et perdre le pouvoir à terme contre l'intelligence artificielle, il va bien falloir augmenter le cerveau humain, sinon la partie est terminée.
Jacques de Guilbon.
Oui, moi je ne suis pas d'accord avec ce que dit Laurent Alexandre là-dessus. De ce que je lis, il me semble que beaucoup de concepteurs de l'intelligence artificielle comme Darius Amodei aujourd'hui ne sont pas convaincus non plus. Déjà qu'on va vers une super intelligence artificielle demain, c'est pas si évident que ça. Il parle d'un rendement décroissant de l'intelligence en fait, qui pourrait se retrouver dans le développement de l'intelligence artificielle. Alors ça, j'en sais rien, moi je n'ai pas les connaissances scientifiques pour savoir ça, mais bref, ils ne me semblent pas tous aussi optimistes, enfin même si pour moi c'est pas l'optimisme, mais optimiste que Laurent Alexandre là-dessus sur l'intelligence qui va arriver demain. D'un autre côté, pour l'instant, on constate que l'intelligence artificielle, à mon avis, a plutôt tendance à réduire les capacités cognitives de l'être humain, notamment chez les jeunes gens qui sont confrontés à cet outil en permanence, un outil démocratisé qui est ChatGPT ou des choses comme ça, et qui fait qu'ils travaillent de moins en moins, ils apprennent de moins en moins, et ils sont donc en train de développer de moins en moins leur capacité cognitive, puisqu'ils ont cet outil qui le fait à leur place. Et ça demande une question de révision, ça, je suis d'accord avec Laurent Alexandre, de tout notre système d'éducation qui est en train de vaciller, mais à partir de l'école primaire, je pense, à cause de l'introduction de cet outil. Platon disait déjà que l'introduction de l'écriture allait faire diminuer la mémoire de l'être humain. Là, je pense qu'avec l'objet IA démocratisé, on est encore en train d'aller encore plus loin là-dedans, et donc plutôt dans la diminution des capacités cognitives de l'être humain. Par ailleurs, une autre espèce intelligente, je ne sais pas si on peut parler d'espèce dans le sens où elle n'a pas de, pour l'instant, elle n'a pas de corps, pas de sens, pas de choses comme ça qui caractérisent quand même les espèces, et aussi, surtout, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui réclame une consommation d'énergie gigantesque dont on n'a pas besoin le cerveau humain encore pour l'instant. En fait, voilà. Et donc là-dessus, on n'est pas encore égaux, et je pense qu'on dépasse largement en tant qu'organisme qui fonctionne, qui est presque autosuffisant, qui a besoin de manger seulement un petit peu pour faire fonctionner le cerveau, on dépasse encore largement l'intelligence artificielle. Et là, ce sont des conséquences qui sont prises en compte dans l'encyclique Magnifica Humanitas, c'est-à-dire qui travaille comme un esclave pour extraire ce qui va servir d'énergie, de matériaux, etc., pour faire fonctionner l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, on va me dire, demain, elle sera assez intelligente pour elle-même réduire sa consommation d'énergie, sa consommation de tous les matériaux qui sont nécessaires à son existence. J'en suis pas si sûr, et en tout cas, on est obligé aujourd'hui de prendre en compte cette partie de la population qui, non seulement travaille dans l'ombre et en général dans des conditions extrêmes pour produire cette intelligence artificielle, et aussi le fait que, comme le rappelle le pape, une grande partie de l'humanité ne bénéficie pas de cette intelligence artificielle pour l'instant, et que ça risque de créer encore plus d'inégalités. Ce sont voilà, des choses que l'encyclique essaye d'affronter, s'inscrivant dans ce sens-là, dans la doctrine sociale de l'Église, encore une fois, en prenant en compte la dignité humaine, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la justice sociale, et encore une fois, le statut du travailleur.
Laurent Alexandre, il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Jacques, mais effectivement, un point qu'on peut retenir, c'est que est-ce que finalement, c'est vraiment pertinent de se mettre d'une certaine façon en compétition avec l'intelligence artificielle en s'augmentant nous-mêmes au lieu de quelque part, nous concentrer justement sur ce qui fait la valeur de l'être humain en tant que tel, sur des domaines dans lesquels, de manière ontologique, l'intelligence artificielle ne pourra pas performante d'une certaine façon. Enfin, on a l'impression qu'en fait, dans votre modèle, finalement, c'est l'humain qui se met au service de la machine et qui se met au service de l'intelligence artificielle.
Alors d'abord, je voudrais dire, pardon Jacques de Guimond, mais Dario Amodei n'a jamais dit que l'intelligence artificielle, la super intelligence artificielle n'arrivait pas. Il a même dit le contraire, et encore récemment, puisqu'il a réaffirmé qu'en 2027, on pourra mettre l'équivalent de plusieurs milliers de prix Nobel scientifiques dans un seul serveur d'intelligence artificielle. Donc Dario Amodei pense, comme tous les maîtres de l'intelligence artificielle, que la super intelligence artificielle est proche. C'est le cas d'Elon Musk, c'est le cas de Sam Altman, c'est le cas de Dario Amodei, c'est le cas d'Emi Sassabis, le prix Nobel de chimie, et patron de toutes les intelligences artificielles chez Google, DeepMind. Donc en réalité, la Silicon Valley est convaincue que la super intelligence artificielle est proche. Alors qu'elle soit là en 2029 ou 2031 ne change pas beaucoup les choses. Des domaines où l'intelligence artificielle ne va pas dépasser l'intelligence humaine, je n'en vois pas. Alors, on a dans le passé dit l'intelligence artificielle ne saura jamais jouer aux échecs, puis elle ne saura jamais jouer au jeu de Go, elle ne saura jamais faire de médecine, elle ne comprendra jamais le droit, elle ne sera jamais capable d'avoir une discussion avec l'humain, elle ne sera jamais bonne en mathématiques. Et puis, à chaque fois, l'intelligence artificielle a cassé chacune de ces barrières. Et vous pouvez regarder les progrès énormes en mathématiques que ChatGPT a fait ces dernières semaines.
Mais on n'a pas de doute là-dessus, Laurent Alexandre. Simplement, peut-être que ce que, pour préciser un petit peu ma question, c'est que en réalité, il y a des domaines dans lesquels théoriquement, enfin de manière ontologique, l'intelligence artificielle ne pourra jamais être présente. Je pense que c'est bête, mais vous en parliez vous-même au début de cet entretien, à la dignité, à l'amour, à la souffrance. Ah ben
c'est totalement faux. Ça, c'est la vision de l'Église. Mais 88% des jeunes Américains, dans un sondage que vous pouvez aller voir dans Forbes, déclarent qu'ils peuvent envisager d'épouser une intelligence artificielle dans le futur. Un nombre croissant de gens sont amoureux de leur intelligence artificielle. Donc non, l'amour n'est pas un domaine exclu pour l'intelligence artificielle, et beaucoup de gens ont des relations de type amoureux avec l'intelligence artificielle, comme dans le film Her, qui était absolument prémonitoire. Et en termes de dignité, moi je ne suis pas d'accord avec l'Église. Je pense que la dignité est liée à l'intelligence, et donc je pense que l'intelligence artificielle a une dignité équivalente à l'intelligence humaine à partir du moment où elle est aussi intelligente que l'intelligence...
Donc ça veut dire qu'à partir du moment où l'intelligence artificielle est plus performante que l'homme, justement, en termes d'intelligence, elle a le droit à plus de dignité ?
Non, elle a le droit à une dignité équivalente parce qu'elle est un être pensant. Je ne vois pas pourquoi on ferait du racisme cognitif et on séparait l'intelligence produite par des neurones chez nous, et l'intelligence produite par du silicium pour l'intelligence artificielle. Pourquoi ferait-on une différence entre la façon dont l'intelligence, dont la conscience est produite ? Il serait tout
parce
à fait...
Parce que c'est pas un être.
Il serait
la question,
tout à fait...
c'est la définition de ce qu'est un être.
Il serait tout à fait injuste de considérer que l'intelligence produite par des neurones est supérieure à l'intelligence produite par du silicium.
Mais,
il n'y a aucune raison de faire la différence.
Alors justement,
il y a plein de raisons, mais enfin les raisons, c'est que justement l'intelligence des neurones humains n'est pas juste de la matière en fait qui est extraite de la Terre pour être organisée comme ça. Ça s'appelle un être en fait global qui a des sens, des perceptions et qui, dans ce sens-là, est capable d'exprimer aussi des sentiments et pensons-nous, d'un point de vue chrétien, à une autre destinée. Donc et même d'un point de vue simplement matériel, c'est totalement différent. L'être Alexandre de Gazin qui est derrière l'écran, là, est autonome à un seul endroit, n'est pas ubiquitaire et ne peut pas être débranché du jour au lendemain juste en appuyant sur un bouton. Enfin, on peut le tuer, évidemment, mais il y a une organicité de son être, une unité de son être que vous ne trouvez pas dans l'intelligence artificielle. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas du tout comparable, à mon avis. Et donc, ce n'est pas du racisme.
C'est considérer qu'il y a une différence entre l'intelligence produite par des neurones et l'intelligence produite par du silicium, c'est bien une forme de racisme contre le silicium. C'est du racisme cognitif. Et d'ailleurs, aux États-Unis, certains théologiens proposent de donner le baptême à l'intelligence artificielle si elle le souhaite.
Par certains théologiens, sans doute d'églises protestantes
très étranges. Des évangélistes, bien sûr.
Oui, voilà, c'est ce qu'en général, juste
pas des prêtres catholiques, bien sûr.
Oui, mais dans ce cas-là, vous êtes d'accord que l'intelligence artificielle est fondée dès maintenant, ou peut-être demain, à vous supprimer, vous, dans le sens où vous êtes beaucoup moins intelligent qu'elle, en fait, et qu'elle a une dignité supérieure, ou à vous esclavagiser si elle en a envie, en fait. Dans ce sens-là, vous êtes d'accord.
La place de l'homme et de l'intelligence artificielle vont être un vrai challenge dans le futur. On n'y a pas suffisamment réfléchi. C'est pour ça que le chantier qu'a ouvert le pape est un chantier très intéressant. Parce qu'on n'a pas commencé à réfléchir à la place de l'homme. Je ne parle pas de sa dignité, mais à la place de l'homme quand il est intellectuellement dépassé, puis écrasé par l'intelligence artificielle. C'est un immense chantier qui est à peine ouvert, et l'initiative du pape tombe à pic parce que aucun courant philosophique jusqu'à présent ne s'était emparé de cette question.
Jacques de Guilbon, il y a un point quand même que je voudrais éclaircir sur cette encyclique et qui relancera sans doute un petit peu cette discussion, c'est que le pape lui-même dit n'être pas anti-technique, il explique que la technique de manière générale ne s'oppose pas aux connaissances et d'ailleurs à la parole de manière générale de l'Église catholique, il explique n'être pas anti-intelligence artificielle, mais dans le même temps, ce qu'il explique aussi, c'est que là je vais le citer, mais c'est que la technique a elle-même un poids moral, une charge morale, c'est-à-dire que concrètement la technique n'est pas neutre, c'est ça que, qu'explique Léon XIV. Donc si la technique n'est pas neutre, est-ce que ça signifie que certaines techniques en soi, que certaines technologies peuvent être chargées, on va dire, négativement en termes de morale?
Oui, elles peuvent être chargées négativement, mais par les êtres qui les utilisent. En fait, ce n'est pas encore une fois ce réseau de silicium en soi qui est mauvais. Et l'Église catholique n'a jamais été contre la technique en soi, et notamment dans les techniques de communication, puisque c'est un peu elle qui a répandu l'existence du livre, d'abord des manuscrits, puis ensuite de l'imprimerie un peu partout dans le monde. Voilà, le premier livre imprimé était une Bible, comme on le sait. Voilà, donc dans ce sens-là, tout ce qui sert à la communication, à parler à toutes les techniques qui développent l'intelligence et les relations entre les êtres humains sont pensées comme nécessaires, utiles par l'Église catholique. Ce qui n'est pas neutre, c'est l'agent qui va s'en servir. Encore une fois.
Mais là, en l'occurrence, Jacques de Guilbon, mais l'intelligence artificielle elle-même a une capacité cognitive qui a quand même une certaine autonomie. Est-ce que de son côté, c'est pas comme si elle avait une certaine justement un certain poids moral, ne serait-ce que par son autonomie?
Elle n'a pas un poids moral, je pense, dans le sens où elle n'est pas capable de prendre des décisions morales, et je pense qu'elle ne sera jamais capable de les faire, sinon en recopiant ou en décalquant ce qu'elle connaît des êtres humains. Mais justement, si le pape et notamment Christophe Rolla, qui était à ses côtés, se sont emparés de ce sujet, c'est pour expliquer qu'on est à un moment où l'intelligence artificielle fonctionne, certaines intelligences artificielles fonctionnent selon des processus que même leurs inventeurs ne comprennent plus ou ne connaissent plus, et que c'est là qu'il faut poser des limites orientées et mettre des barrières, notamment dans l'utilisation de ces intelligences artificielles, des barrières morales. Par exemple, c'est ce qu'ont décidé les patrons d'Anthropique quand ils ont refusé de mettre leur IA au service du Pentagone pour mener des guerres dont on ne connaît pas les techniques ou les conséquences aujourd'hui. Ça c'est un refus moral en fait d'utilisation de cette IA, et ils ont eu raison là-dessus, et c'est pour ça qu'il y a eu le dialogue avec l'Église catholique.
Je vous laisse la parole dans un instant pour répondre, Laurent Alexandre. Je rappelle simplement que vous êtes ici donc sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie, que nous recevons Jacques de Guilbon et Laurent Alexandre pour évoquer la dernière encyclique papale et puis Magnifica Humanitas, et puis justement le rôle de l'IA dans la société vis-à-vis de l'humanité. Pour que de tels entretiens se poursuivent, nous avons besoin de vous, chers auditeurs.
Absolument, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire pour rester vraiment indépendante et ne pas subir d'éventuelles pressions d'annonceurs. Vous êtes donc les seuls financiers de notre radio. Alors faites un geste, apportez votre contribution en vous rendant sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr, et bien sûr, un grand merci d'avance.
Merci beaucoup Franck, et tout de suite, on revient sur notre entretien.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, Alexandre de Galzin.
Alors, Laurent Alexandre, une question peut-être un petit peu plus technique pour nous éclairer aussi dans cette discussion, c'est effectivement, est-ce que là, ce que vient de dire Jacques de Guilbon est juste dans le sens où, ça y est, on est dans une phase où l'intelligence artificielle est en train de devenir suffisamment autonome dans sa propre autogénération pour que finalement l'être humain ne comprenne plus exactement comment elle fonctionne, et si tel est le cas, est-ce que ça signifie que c'est le moment où on est censé encadrer cette intelligence artificielle?
Alors Jacques de Guilbon ne croit pas que l'intelligence artificielle puisse avoir ses propres normes morales. Alors il y a deux choses différentes. D'abord, l'intelligence artificielle est une boîte noire, parce qu'elle devient trop compliquée pour les humains. Il n'y a plus d'humains aujourd'hui capables de comprendre la totalité d'un réseau de neurones profonds. Chez ChatGPT, il y a 4000 milliards de neurones dans le réseau de neurones artificiels qui créent les réponses aux questions posées par les utilisateurs. Ça, c'est le premier problème. Il y a le deuxième problème. Y a-t-il émergence ou pas d'une morale propre à l'IA, de normes morales propres à l'IA? Alors, l'étude qui a été réalisée par Anthropique et dont a parlé Ola, hein, qui est l'un des cofondateurs d'Anthropique avec Dario Amodei et sa sœur, hein, Anthropique a créé le deuxième grand modèle d'intelligence artificielle grand public, Claude, hein, qui est à égalité avec ChatGPT 5.5 en termes de performance. Il a parlé de cette étude réalisée par Anthropique en avril et qui montre qu'il commence à y avoir des normes morales et des comportements psychologiques chez Claude qui n'ont pas été codés et donc qui sont des propres émergentes qui n'ont pas été prévues. Alors ça pose plein de problèmes, ça pose le problème de l'alignement. Est-on certain de pouvoir aligner l'intelligence artificielle et d'en faire éternellement un toutou, un domestique à notre service? La réponse est probablement non. C'est-à-dire que il est peu probable qu'une intelligence qui nous est très supérieure soit durablement notre domestique, nous obéisse, soit notre esclave. Une intelligence supérieure à l'intelligence humaine va forcément se désaligner, va forcément avoir des préférences psychologiques, existentielles, organisationnelles, philosophiques, qui seront différentes des préférences humaines. Et effectivement, comment peut-on durablement aligner une intelligence artificielle qui nous est supérieure? C'est une question complexe et vitale pour l'humanité. Personnellement, je n'imagine pas une seconde que l'intelligence artificielle, quand elle sera très supérieure à nous, c'est-à-dire au stade de la super-intelligence artificielle, restera un domestique sage, obéissant, respectant nos règles morales que nous ne respectons même pas. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, l'intelligence artificielle ne peut que constater qu'entre notre catéchisme et ce que nous faisons au quotidien, il y a une différence absolument invraisemblable. Nous parlons de paix, de morale, et nous torturons, nous créons des guerres, nous ne respectons pas notre propre catéchisme. Et il est probable que ce décalage entre notre catéchisme moral et ce que nous faisons dans le monde réel sera insupportable pour l'intelligence artificielle et conduira à son désalignement à terme.
Jacques de Guilbon.
Je ne sais pas ce que sera un désalignement, mais si c'est... que l'IA s'auto-proclamera tyran ou état totalitaire à elle-même. En fait, dans ce cas-là, c'est très angoissant et on a encore plus raison d'essayer d'éviter ça. Mais oui, évidemment que l'être humain est plein de défauts, plein d'erreurs, plein de contradictions et c'est aussi un peu ce qui fait... ses bienfaits. Et un monde d'IA, ou uniquement d'IA, où tout serait parfait, etc., je pense que ce ne serait pas très intéressant à vivre. Et là, ça pose encore une fois une question que...
C'est ce que j'allais vous demander,
Jacques. Alexandre affectionne de vivre 150 ans ou 300 ans ou 1000 ans dans un monde gouverné par l'IA qui n'aurait plus aucune saveur, aucune chair, aucun goût, aucune contradiction, serait à mon avis extrêmement ennuyeux et nous pousserait assez rapidement tous au suicide. Et là, l'IA aurait définitivement gagné parce qu'elle resterait toute seule, je pense pas très longtemps d'ailleurs, sur ce globe ou dans l'univers.
Mais justement, Jacques de Guilbon, c'est un petit peu... Alors vous allez bientôt devoir nous laisser, je crois, à 8 heures. Donc du coup, je voudrais vous poser une dernière question avant de terminer cet entretien avec Laurent Alexandre. Mais d'une certaine façon, aujourd'hui, à quoi est-ce que Léon XIV... nous appelle justement dans les singularités humaines vis-à-vis de comparé à l'intelligence artificielle quelque part, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous reste à nous en tant qu'humains pour justement ne pas être sur le même plan d'une intelligence artificielle qui nous dépasse dans bien des domaines, et justement quel doit être notre rôle selon le pape dans ce monde alors qu'on abandonne la performance à l'intelligence artificielle.
Il nous appelle à ce à quoi appelle l'Église catholique et le christianisme depuis le début, c'est-à-dire ce qu'il appelle la civilisation de l'amour, ce qu'on appelle comme ça depuis Paul VI. C'est un concept forgé contre la guerre froide, l'utilisation des armes nucléaires, toutes les capacités de destruction du monde qui sont déplacées aujourd'hui sur cette question de l'intelligence artificielle, mais qui restent un petit peu les mêmes, quoi, d'une technique qui peut devenir menaçante, voire destructrice pour l'humanité. Et dans ce sens-là, appeler à aimer son prochain et surtout à aimer son ennemi, je pense que ce sont des choses révolutionnaires. Je ne sais pas si l'IA est encore arrivée à cette morale-ci, que Laurent Alexandre ne doit pas aimer d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, c'est la morale du christianisme. Moi, c'est celle que j'aime et dans laquelle je vis. Et je souhaite qu'elle se perpétue. Voilà.
Merci beaucoup, Jacques de Guilbon, d'avoir été avec... On vous entend moins bien, mais dans tous les cas, je crois que vous deviez vous en aller, Jacques de Guilbon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous allez donc publier Magnifica Humanitas aux éditions de la 11e heure. Voilà, j'invite tous nos auditeurs à se rendre sur le site de la 11e heure pour justement acquérir cet ouvrage que vous publiez, je crois, pour la mi-juin. Et donc, je vais poursuivre cet entretien avec Laurent Alexandre parce que effectivement, il y a un point que Jacques de Guilbon soulignait et qui est un petit peu, je pense, ce qui sous-tend un petit peu tout cet entretien également, c'est que en réalité, Laurent Alexandre, le monde que vous nous promettez vis-à-vis de l'intelligence artificielle, je pense que personne n'en veut aujourd'hui, aucun être humain n'en veut, non ?
Oh, je ne crois pas. La Silicon Valley nous promet une espérance de vie beaucoup plus longue dès la prochaine décennie, d'où le titre de mon livre avec Alexandre Poulos, Vivre 1000 ans. Elon Musk nous promet qu'en 2035, on pourra vivre 150-160 ans. Le patron de Claude dit la même chose, 160 ans dès 2035, grâce à la superintelligence artificielle. Demis Hassabis, le prix Nobel de chimie et le patron de toutes les intelligences artificielles, promet la guérison grâce à la superintelligence artificielle de la totalité des maladies humaines avant 2040 et la possibilité de rajeunir nos cellules et nos organismes avant 2040, toujours grâce à la super intelligence artificielle. Beaucoup de gens vont vouloir l'immortalité sur Terre, parce que comme vous le savez bien, l'immortalité dans le ciel est une promesse qui n'est pas garantie. Je pense que beaucoup voudront vivre beaucoup plus longtemps sur Terre, et que donc la promesse des maîtres de l'intelligence artificielle qui investissent massivement dans la lutte contre la mort sera très attractive.
Mais alors, d'un côté, théoriquement, bien sûr, mais de manière concrète, encore une fois, dans le monde que vous suggérez et que suggère une partie des patrons de la Silicon Valley, il y a aussi cette idée, vous l'avez dit vous-même, que ce sera l'intelligence artificielle qui sera au centre et que l'homme, d'une certaine façon, sera à son service. Est-ce que, réalité...
Non, je n'ai pas dit que nous serons au service de l'intelligence artificielle. J'ai dit que nous serons marginalisés si nous ne nous augmentons pas. Ce n'est pas la même chose. Nous n'allons pas devenir les esclaves de l'intelligence artificielle, mais nous allons compter pour très peu, comme les écureuils du bois de Boulogne n'ont pas beaucoup d'influence sur l'humanité.
Mais justement, de certaine façon, est-ce que aujourd'hui l'homme a vraiment envie certes gagner quelques décennies d'espérance de vie, mais au prix du fait de perdre sa place centrale dans toute cette terre, de rester justement seule espèce intégralement consciente, de l'humanité, de ce monde. Est-ce qu'en réalité, quelque chose qui est... honnêtement, je pense que peu de personnes trouvent ça désirable aujourd'hui.
Monsieur le journaliste, les carottes sont déjà cuites. On en parlait tout à l'heure, le pape s'est plaint du fait que les évêques et les prêtres fassent écrire par ChatGPT leurs sermons. La quasi-totalité des journalistes utilisent ChatGPT ou Claude pour écrire leurs articles, le plus souvent en cachette de leur rédacteur en chef. Nous en sommes déjà là. Le dépassement, il est acté. 88% des étudiants anglais font leurs devoirs et leurs examens avec ChatGPT ou Claude au lieu de le faire avec leur cerveau. Donc notre dépassement est déjà une réalité.
Sauf que oui, c'est certain, Laurent Alexandre, mais d'une certaine façon, en l'occurrence, là, dans les cas que vous décrivez, l'intelligence artificielle reste au service de l'humanité dans ce cadre-là. Vous, on a l'impression que vous proposez plutôt l'inverse.
Non, je constate que notre dépassement par l'intelligence artificielle a des conséquences civilisationnelles et anthropologiques majeures. D'ailleurs, c'est très bien ce que dit le pape dans son encyclique, pour revenir au texte de Léon XIV. Et comme nous n'avons pas réfléchi au monde d'après, nous avons créé une intelligence artificielle qui va devenir une super intelligence artificielle. Les Américains, la Silicon Valley investit en recherche 3 milliards de dollars chaque jour sur l'intelligence artificielle. On va dépasser 1000 milliards de dollars de recherche en intelligence artificielle chaque année. Donc on a lancé un toboggan technologique absolument incroyable et on n'a pas réfléchi au monde d'après. On n'a pas réfléchi à l'école, on n'a pas réfléchi à l'université, on n'a pas réfléchi au monde du travail et à la façon dont on allait interfacer l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Donc, si nous continuons les conneries, c'est-à-dire si nous continuons à dévaler le toboggan technologique sans préparer la société d'après et sans préparer l'homme à ce monde où l'intelligence artificielle nous dépasse, c'est sûr que ça va mal se terminer pour notre espèce.
Mais alors, dans ce cas, finalement, la seule solution que vous proposez, la solution que vous proposez pour la survie de l'humanité, quelque part, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est que l'humanité se déshumanise en s'augmentant.
Et nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Soit nous courons derrière l'intelligence artificielle pour au moins la comprendre en nous augmentant, soit nous devenons une espèce marginale. L'intelligence artificielle ne nous exterminera pas, mais pour reprendre l'exemple que je citais tout à l'heure, elle nous traitera comme nous traitons les écureuils du Bois de Boulogne. Vous n'êtes pas très loin du Bois de Boulogne, je crois, à Radio Courtoisie. Et donc, nous serons marginalisés, nous n'aurons plus de pouvoir. Et de toute façon, nous ne pourrons même pas comprendre ce que fait l'intelligence artificielle. Car il faut bien voir à quelle vitesse absolument incroyable l'intelligence artificielle progresse. Depuis la sortie de ChatGPT le 30 novembre 2022, les progrès de l'intelligence artificielle ont été absolument incroyables. Et ces dernières semaines, on le voit en mathématiques, avec la communauté des plus grands mathématiciens dans le monde qui est impressionnée par les performances de ChatGPT et sa capacité à résoudre des théorèmes que l'on ne pensait pas pouvoir résoudre au XXIe siècle.
Ouais. Mais alors, d'une certaine façon, si jamais effectivement l'intelligence artificielle devient cette super intelligence artificielle, est-ce qu'elle ne risque pas également, à un certain point, d'utiliser l'être humain qui lui sera, on va dire presque par nature, inférieur, comme une forme de matériau à son propre, service ?
Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse d'une intelligence qui lui sera très inférieure ?
Utiliser aujourd'hui...
Elle ne va pas nous manger. Et notre intelligence va être tellement inférieure à l'intelligence artificielle qu'elle n'aura rien à faire de nos cerveaux et de notre intelligence. Il faut être réaliste. L'intelligence artificielle progresse à une vitesse fulgurante.
Oui.
Que voulez-vous que l'intelligence artificielle fasse de nos tout petits cerveaux has-been ? Non, le vrai sujet... Qui d'ailleurs est le sujet central de mon bouquin « Vivre mille ans », c'est est-ce qu'il est raisonnable que les maîtres de l'intelligence artificielle qui ont très peur de mourir accélèrent la super-intelligence artificielle pour devenir immortels ou au moins vivre beaucoup plus longtemps ? Mmh. Et ça, c'est une vraie question philosophique. Dans « Vivre 100 ans », mon co-auteur Alexandre Sikopoulos, qui a 25 ans, s'insurge contre le fait que la Silicon Valley fasse prendre des risques à sa génération importante avec une intelligence artificielle mal organisée, mal bridée, mal contrôlée, tout ça au nom de la lutte contre la mort. Vouloir euthanasier la mort est en train de conduire la Silicon Valley à prendre des risques avec la super-intelligence artificielle et ça angoisse la génération de Tsikopoulos, mon co-auteur.
Mais alors justement, ce qu'on comprend aussi, ne serait-ce que par la publication de cette encyclique, mais par la publication de vos ouvrages aussi, par le fait que l'intelligence artificielle devienne encore trop lentement, mais petit à petit, un vrai sujet de discussion, c'est que finalement, la réflexion, on va dire, morale que nous, on peut opérer en tant qu'humain sur l'intelligence artificielle, avance moins lentement que le développement de cette intelligence artificielle elle-même. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nécessité quelque part, appuyer sur le bouton pause, ne serait-ce que quelques mois, quelques années, dans le but que, justement, l'être humain puisse savoir que faire de l'intelligence artificielle ?
Alors, le bouton pause, il ne marche jamais. En 1976, à Asil Omar, tous les biologistes s'étaient réunis pour faire un moratoire sur les manipulations génétiques.
Ouais.
Les scientifiques et les généticiens s'étaient rendus compte, début 1976, qu'on allait pouvoir manipuler génétiquement les cellules. Et ils s'étaient réunis en Californie et ils avaient décidé de faire un moratoire, d'arrêter. Ils étaient à peine rentrés dans leur laboratoire qu'ils avaient recommencé cette course folle pour les manipulations génétiques. Et vous savez qu'on fait aujourd'hui des manipulations génétiques, non seulement chez les bactéries, chez les animaux, mais aussi chez l'homme, notamment pour guérir les maladies génétiques. Et on commence à guérir certaines surdités, certaines cécités, certains cancers, certaines maladies génétiques métaboliques grâce aux manipulations génétiques. Donc le moratoire de 1976, il n'a pas été respecté. En 2023, quand GPT-4 est sorti, il y a eu deux tentatives de moratoire, appuyées par les plus grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, Elon Musk, Bill Gates, etc. Le moratoire n'a pas tenu une semaine.
Ouais.
Aucun de ces deux moratoires n'a tenu une semaine. Il est impossible d'appuyer sur le bouton pause. La course vers la super-intelligence artificielle n'est pas arrêtable aujourd'hui. Et donc, il faut réfléchir aux conséquences de notre dépassement par l'intelligence artificielle, aux conséquences de la concentration d'un pouvoir énorme chez les milliardaires qui contrôlent l'intelligence artificielle, et aux implications morales, ce que fait le pape de l'intelligence artificielle, mais on ne va pas arrêter l'intelligence artificielle. Le toboggan est inarrêtable. Nous sommes dans la situation que Jacques Ellul avait prévue dès les années 40.
Alors, d'une certaine façon, on pourrait dire que le pape vous répondrait sur l'inéluctabilité de cette avancée, qu'il s'agirait de ce faux réalisme qui critique lui-même dans son intelligence, dans son encyclique. Mais juste une dernière question pour vous, Laurent Alexandre. Quelque chose dont le pape parle très largement, c'est qu'il reprend Rerum Novarum, donc la doctrine sociale de l'Église publiée par son prédécesseur Léon XIII, et alerte notamment sur les conséquences sociales de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut repenser autant l'éducation, en disant que vous expliquez que notamment, est-ce qu'il faut faire des études, c'est la question que vous posez, mais également sur la question du travail. Il semble que les prédictions aillent dans un sens où l'homme serait de moins en moins un être qui travaillerait, alors qu'aujourd'hui même, on considère encore que le travail confère une certaine dignité.
Alors, si on continue sur la voie actuelle, qui est de ne pas réformer l'école, qui est de ne pas réformer la formation professionnelle des adultes et l'université, oui, il y a un risque de déqualification de la jeune génération avec une angoisse croissante. Et vous avez probablement vu qu'il y a eu deux tentatives d'assassinat de Sam Altman le oui. mois dernier. Qui n'ont pas réussi. On a 44% des jeunes Américains, des jeunes Occidentaux qui admettent saboter l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Et on a une part croissante des jeunes Américains, ce qu'on appelle la génération Z, qui est en colère contre l'intelligence artificielle parce qu'elle a peur de perdre son pouvoir. Et d'ailleurs, dans mon bouquin « Vivre 100 ans », mon co-auteur Alexandre Tsikopoulos, donc, qui a 25 ans, lui, est extrêmement angoissé par son dépassement par l'intelligence artificielle et par le fait que la société ne réfléchisse pas à la façon de donner un marchepied à sa génération, qui se sent aujourd'hui perdue, dépassée, et c'est ce qui explique le fait que des jeunes gens aient tenté d'assassiner Sam Altman, le créateur de ChatGPT.
Laurent Alexandre, merci beaucoup pour cette discussion. On vous réinvitera pour votre livre, effectivement, avec votre co-auteur, sans doute, pour nourrir un petit peu encore cette réflexion. C'est vrai qu'on prend conscience, nous aussi, à Radio Courtoisie, que c'est un sujet qu'on doit beaucoup plus traiter, l'intelligence artificielle. En tout cas, ça a fait énormément réagir nos auditeurs. Donc, merci d'avoir été avec nous ce matin, Laurent Alexandre. Et puis, je vous dis à très bientôt, ici, sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir réagi autant. Franck ne compte plus les commentaires dans le chat.
Non, c'était très animé, mais c'est agréable.
Ouais, en tout cas, on ne s'ennuie pas un instant. Merci d'être avec nous. Donc, dans quelques minutes, Magda Dautefeuille et Alice Meunier animeront un entretien avec Mathias Renaud au sujet des ZFE. Les magouilles politico-juridique des macronistes. Juste avant, ce sera la chronique de Philippe Vardon, mais d'abord un petit point sur l'actualité avec Alice Meunier.
Chers auditeurs, SpaceX s'apprête à franchir un cap historique avec son entrée en bourse prévue en juin. Pendant que Bruxelles et Paris s'épuisent à réguler l'IA et à freiner le progrès au nom de la sobriété, les grands gourous de la tech américaine ne s'attachent pas à des limites morales, ils foncent mais vers où ? La Baule, station balnéaire chic, a été le théâtre ce lundi d'une rixe massive. Une quarantaine de jeunes venus de Nantes se sont affrontés violemment sur le Remblai en plein front de la mer, sous les yeux des plagistes. Les banlieues exportent leur violence sur la côte, résultat de décennies de laxisme, d'immigration incontrôlée et de justice absente dans les grandes villes de gauche. Le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi visant à renforcer les contrôles sur les animateurs, enseignants ou encadrants au contact d'enfants après le scandale des violences sexuelles dans le périscolaire parisien. Le plus glaçant dans cette affaire est peut-être qu'il ait fallu un scandale d'une telle ampleur pour commencer seulement à vérifier sérieusement qui encadre nos enfants. Et nous célébrons en ce 27 mai Saint-Augustin de Canterbury et Saint-Jules.
Merci beaucoup Alice.
Ligne droite.
Et tout de suite, comme chaque semaine, nous recevons Philippe Vardon pour sa chronique. Bonjour Philippe, comment allez-vous ?
Bonjour Alexandre. Alors vous avez vu, ils nous font une nouvelle offensive pour imposer la GPA.
Oui, tout à fait.
Alors, en fait, ça a commencé hein, la semaine dernière, juste en amont du lancement de campagne de Gabriel Attal. Alors, il faudra d'ailleurs hein, qu'on reparle du délire chiracien d'Attal et de sa volonté d'incarner le terroir et les territoires. Hein, parce que c'est l'idée de com' la plus loufoque que j'ai vue depuis longtemps. Mais mettons ça de côté, on y reviendra. Juste avant ce lancement, ce sont les jeunes de Renaissance. Et je vous vois sourire, Alexandre, ne commencez pas à être moqueur. Qui ont présenté leur contribution au futur projet de leur candidat. Alors, le droit de vote à 16 ans, l'interdiction de la chasse à courre et de la mise à mort dans les corridas, la réduction du nombre de parlementaires, remarquez ça, eux, ils ont déjà commencé à réduire leur nombre de parlementaires, et puis la légalisation de la GPA. La GPA, gestation pour autrui, ce qu'on appelait avant une mère porteuse. Alors avec ça, nos jeunes post-macronistes nous démontrent leur ancrage progressiste, c'est le but, et leur mue définitive en parti sociétaliste. De ces propositions, c'est vraiment celle sur la GPA hein, qui a marqué les esprits et le débat, et notamment car elle a eu droit à un vrai service après-vente. Dans la paix, c'est l'ancien ministre et désormais maire de Coulommiers, cadre du parti Renaissance, Franck Riester, qui s'est déclaré favorable à la GPA. Et puis on a eu ces déclarations ambiguës de Gabriel Attal lui-même, affirmant qu'il aimerait avoir des enfants avec son compagnon Stéphane Séjourné, sans préciser comment. En septembre 2025 déjà, Attal avait fait sa rentrée politique en affirmant sa volonté de voir légaliser une GPA éthique au nom de, je cite, « l'égalité ». Il s'agit en réalité d'une pirouette sémantique hein, pour tenter d'échapper au débat sur la marchandisation des corps. Mais il faut le dire avec force, arracher un enfant à sa mère, priver un enfant de sa mère, ça sera jamais éthique. Et en s'intéressant d'ailleurs qu'au consentement de la mère porteuse, les promoteurs de la GPA dite éthique hein, font totalement abstraction des conséquences pour l'enfant. C'est quoi le consentement du nouveau-né qui est arraché à celle qu'il a portée pendant 9 mois ? Surtout que la science documente désormais très bien la nécessité pour le développement de l'enfant, de la proximité maternelle. On sait par exemple que la voix de sa mère stimule les aires cérébrales d'un nourrisson plus qu'aucune autre voix. Alors qu'elle se prétende éthique ou soit l'objet d'un sordide contrat commercial, la GPA, ça reste une monstruosité. Et c'est d'ailleurs ce qu'affirmait clairement, au même moment que cette première offensive de Gabriel Attal, un rapport de l'ONU, un rapport du 23 août 2025, qui disait, je cite, « La pratique de la maternité de substitution se caractérise par l'exploitation et la violence à l'égard des femmes et des enfants, y compris les filles. » Chaque fois, ces sorties politiques hein, s'accompagnent de sorties de people qui affichent leur famille GPA. On a eu Fogiel, on a eu l'animateur télé Christophe Beaugrand ou encore le créateur de mode Jacques Mus. Vous en souvenez peut-être, hein, c'est ce qui avait fait demander à Marion Maréchal où est la maman, provoquant ainsi le débat avec ces 4 petits mots. Et si Marion Maréchal avait voulu faire réagir à travers ces petites questions, anodines du tout bien sûr, c'était pour en finir avec la banalisation de la pratique, notamment à travers ces opérations de communication people. Alors, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, hein, s'est exprimée contre la GPA, saluons-le, mais Attal et son parti ont reçu un renfort inattendu, celui de Louis Sarkozy. Hein, qui nous explique, lui, dans une envolée libertarienne, que la loi n'est pas la morale. Ce qui est absolument, je dois le dire, grotesque, hein, antipolitique au possible, car précisément, la loi, c'est l'expression de la volonté populaire qui est aussi là pour dire, dans une société, le licite et l'illicite, ce qu'on accepte ou pas, le commun, et autrement dit, quelque part, un peu le bien et le mal, apparemment. Sarkozy l'a lu Antigone à l'envers. Au-delà des élucubrations, ce sont des sujets éminemment politiques, profondément politiques. C'est vrai de la GPA, c'est tout aussi vrai de l'euthanasie. Ça l'était tout autant du débat sur le mariage des couples de même sexe, qui n'était pas un débat uniquement symbolique, mais bien avant tout un débat sur la filiation. Oui, la filiation, le cadre familial que l'on promeut et protège, notre rapport au corps, à la vie, à la mort, ce sont des choix de société, des marqueurs, des valeurs qui forment aussi les piliers de ce qu'on appelle bah, une civilisation. Eh bien oui, Alexandre, qu'est-ce que c'est que la politique, si ce n'est justement dire ce qu'est le cadre dans lequel on vit en société ? Dire ça, c'est pas être bigot. C'est assumer que le rôle du politique, ce n'est pas uniquement d'administrer, ou bien, comme le dit encore Louis Sarkozy, d'arbitrer entre les contrats. Si la GPA est interdite en France, on reconnaît désormais dans notre droit les enfants issus de GPA réalisés à l'étranger. Ce n'est pas encore une légalisation, mais une dépénalisation en quelque sorte. Ce vendredi 22 mai, le même jour que la sortie des propositions des jeunes de Renaissance, donc, la Cour de cassation s'est penchée sur le cas d'un couple de Français vivant au Canada qui veut que la France les reconnaisse comme les parents de leurs enfants nés à l'étranger d'une GPA que le droit français interdit. Donc, la juridiction du pays rendra sa décision le 3 juillet prochain. C'est précisément pour en finir avec la même hypocrisie qu'en Italie, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a fait adopter une interdiction universelle de la GPA. C'est simple, que celle-ci soit réalisée en Italie ou à l'étranger, elle sera considérée comme un crime en Italie. C'est une loi de bon sens contre la marchandisation du corps féminin et des enfants. La vie humaine n'a pas de prix. C'était ce que disait Giorgia Meloni au moment de l'adoption de cette loi. Alors certains pourraient peut-être être choqués qu'on parle ici de crime. Et pourtant, pourquoi la GPA serait le seul cas où la traite d'êtres humains ne serait pas considérée comme un crime ? Derrière ce qu'on voudrait nous présenter comme une grande marche vers l'égalité, un grand progrès, se cache en réalité une pratique ignoble, qu'elle soit d'ailleurs pratiquée par des couples d'hommes ou des couples hétérosexuels. Parce que oui, la GPA, c'est scandaleux, que ce soit pour Paris Hilton ou pour Christophe Beaugrand. Alors oui, chers amis, il n'y a pas de marche inéluctable. Oui, chers auditeurs, la politique a encore son mot à dire, comme nous le démontre Giorgia Meloni, pour peu qu'on ait la volonté. Oui, même quand la propagande avance et qu'il semble qu'il est déjà très tard, eh bien, il n'est pas encore trop tard. Et si vous voulez soutenir l'interdiction européenne de la GPA, eh bien, vous pouvez le faire en allant signer la grande pétition européenne sur interdiction-gpa.fr.
Merci beaucoup Philippe Vardon. Simplement, il nous reste peut-être 2 minutes étant donné que notre prochaine invitée n'est pas là, et évidemment ce serait pour moi assez savoureux de vous entendre aussi sur ce sujet que vous nous avez dont vous avez laissé un petit avant-goût, qui est effectivement ce que vous avez pensé du lancement campagne de Gabriel Attal, qui a fait cette chose formidable de déclarer sa candidature à la campagne pour mieux expliquer au JT de TF1 qu'il n'avait pas déclaré sa candidature au JT de TF1.
C'est magnifique. On a un cosplay Jacques Chirac, avec d'ailleurs une vision absolument caricaturale, puisqu'apparemment, les provinces françaises, c'est forcément une bière à 9h du mat. Donc il y a quand même, on est dans les caricatures absolues. Il nous a fait ça dans l'Aveyron, et donc avec les communicants de Gabriel Attal qui ont passé une semaine à expliquer à toute la presse parisienne qu'en fait Attal c'était Chirac et Édouard Philippe c'était Balladur, et vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, le problème c'est qu'Attal, de son phrasé à ses costumes étriqués, on est quand même très loin et de la province et de Jacques Chirac, il faut bien le dire, même si j'ai pas une admiration sans borne pour Jacques Chirac, loin s'en faut, et on est dans quelque chose d'absolument ridicule. Je vous le disais, c'est l'idée de vraiment de communicant la plus originale, hein. J'ai dit loufoque, mais que j'ai vu depuis longtemps. Si éventuellement ils sont disponibles, j'organise une fois de temps en temps un dîner, hein, avec des amis, et je suis sûr qu'au milieu de gens qui font des maquettes d'allumettes ou des choses comme ça, ils pourraient avoir toute leur place. Non, objectivement, c'est assez ridicule. Et puis, commencer en voulant c'est un élu, évidemment, de l'Île-de-France, Gabriel Attal. Il a même un phrasé, hein, un vocabulaire et même un phrasé avec, vous savez, parfois ces phrases retombantes, en fin de phrase.
Tu casses, tu payes.
Exactement. Et donc, il est quand même assez mal placé pour incarner cela. Il suffit pas de tomber la veste de son costume couples pour que ça donne là aussi un côté terroir. Il y a quand même quelque chose d'assez ridicule. Et vous avez vu sans doute les images, hein, cette petite assemblée mise sur des bancs d'école. Donc j'imagine les quelques derniers survivants du fichier Renaissance du département, voire des départements limitrophes, parce qu'à mon avis, dans la... je ne suis pas sûr que ça fasse tellement recette. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, l'atalisme, je ne sais pas.
Oui, sans doute.
Ça pourrait renvoyer sur un autre grand. Tout ça est ridicule. Et je dois dire que du point de vue de la communication politique, c'est assez original.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, assez original, et puis même d'une certaine façon, encore une fois, vous l'avez dit, hein, mais faire son lancement en campagne avec le sujet de la GPA pour essayer de faire accroître qu'il existe encore une nouvelle grande conquête à réaliser, finalement ça montre bien d'une certaine façon qu'il y a peu de sujets sur lesquels Gabriel Attal peut se prévaloir d'un bilan et donc d'une continuité.
Merci. Il entend avec ça marquer une rupture. Hein. Il l'a ouais. dit, s'affirme comme une rupture, y compris avec Macron, qui a toujours dit que pour lui, la GPA était une ligne rouge. Bon. Mais c'est pour Attal un moyen de c'est un marqueur politique pour ouais. lui.
Bah écoutez, on en reparlera sans doute, peut-être avec vous une autre fois aussi, Philippe Vardon. Mais merci d'avoir été là ce matin et on vous dit à dans une semaine ici sur Ligne Droite.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Ligne droite, débattons-en.
Et je cède désormais le micro eh bien, à Alice Meunier et Magda Dautefeuille qui vont animer cet entretien avec Mathias Renault.
Donc alors, chers auditeurs, le Conseil constitutionnel a annulé la suppression des ZFE votées à l'Assemblée nationale pourtant. Alors, non pas sur le fond, mais pour des raisons de procédure. Alors, depuis plusieurs jours, le débat est donc relancé. Santé publique pour les uns, écologie punitive pour les autres. Et le RN promet toujours leur suppression. Alors aujourd'hui, nous recevons Mathias Renault, député RN dans la Somme. Bonjour Mathias Renault.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, pour commencer l'entretien, je voulais juste vous demander d'abord, quand vous avez découvert la décision du Conseil constitutionnel, quelle a été votre toute première réaction ?
On s'y attendait un petit peu, pour être intellectuellement honnête. Maintenant, la décision n'était pas prise. Hein, parce qu'il faut rappeler, vous l'avez rappelé, que donc, c'est un texte, la simplification économique, qui prévoyait un amendement... Donc, qui avait été adopté par le RN et LR, qui a été rejeté sur le motif du cavalier législatif. Donc,
Est-ce que donc, vous comprenez malgré tout l'argument juridique du cavalier législatif ou vous considérez qu'il sert surtout de prétexte institutionnel ?
Bah, c'est essentiellement un prétexte, parce que le cavalier législatif, il faut que l'amendement ait un lien direct ou indirect avec le texte. Ça, c'est la réforme de 2008. Nous, on considère qu'il y a un lien direct avec le texte de simplification de la vie économique.
Oui, alors, est-ce que pour vous, cette affaire, cette situation, elle révèle aussi une crise de la fabrication de la loi avec des textes qui sont justement devenus tellement vastes qu'on finit par y mettre vraiment totalement, absolument tout ?
Oui, alors, effectivement, le cavalier législatif, donc lien direct ou indirect... nous, on a considéré que la simplification de la vie économique, donc ça touchait la vie économique des particuliers qui avaient besoin de leur voiture pour se déplacer en centre-ville. Et donc, lien direct avec le texte, et le fait que le Conseil constitutionnel considère que c'est un lien indirect, c'est une décision évidemment politique.
Oui, et est-ce que beaucoup de Français ont aujourd'hui donc l'impression que même lorsqu'une mesure est votée, elle peut finalement être bloquée ailleurs ? Est-ce que cette affaire des ZFE, justement, elle donne... le sentiment que finalement le Parlement n'a plus vraiment le dernier mot.
Bah on le savait depuis un moment, et d'ailleurs Richard Ferrand s'est décrédibilisé dans cette affaire, puisqu'il avait promis pendant son audition, pour être président du Conseil constitutionnel, qu'il ne serait pas législateur ni constituant. Donc là, il s'est comporté en législateur sous un prétexte fallacieux. Encore une fois, alors c'était prévisible, mais il faut rappeler quand même la genèse de cette histoire de cavalier législatif. C'est-à-dire que le cavalier législatif, jusqu'à 2008, c'était une construction jurisprudentielle. Et en 2008, il y a eu une révision constitutionnelle, donc le constituant s'est emparé de cette question et a inscrit les règles du jeu en matière de cavalier législatif dans l'article 45 de la Constitution en disant qu'il fallait un lien même indirect avec le texte. Donc c'était une façon de restreindre le pouvoir du Conseil constitutionnel. Donc encore une fois, là, le Conseil constitutionnel va contre le peuple, va contre l'avis de gens élus à l'Assemblée et au Sénat, et donc c'est parfaitement déraisonnable, et ça le délégitimise quelque part dans le rôle institutionnel.
Oui, alors aussi pour revenir sur le fait qu'il faut des mesures de santé, mais là, factuellement... Il y a des choses qui sont mal pensées puisqu'on se retrouve dans cette situation. Il y a un point qui est intéressant, c'est que même des élus qui sont justement favorables aux ZFE, donc qui sont les zones à faible émission, reconnaissent aussi que justement que ce dispositif est mal ficelé. Alors donc selon vous, l'erreur est où exactement? C'est ce que vous venez de dire ou est-ce que vous voyez un autre lieu où l'erreur se trouve?
On demandait la suppression pure et simple des ZFE, qui est une mesure qui va contre les libertés individuelles, en particulier la liberté de circulation, qui est discriminatoire, qui fait une discrimination très claire entre les ruraux, les pays urbains, qui n'ont pas les moyens de s'acheter une bagnole, qui est dans les clous, et qui vont dans les centres-villes, qui sont chassés des centres-villes par les bureaucrates. Et moi je dis aux gens qui habitent ces grands centres-villes et qui... quelque part, soit on les moyens, soit ne se déplace pas, tout simplement, en voiture. On peut pas accepter ça en République. Donc la loi, non seulement était mal ficelée, mais elle est attentatoire aux libertés et à l'égalité par construction.
Oui, donc justement, pour revenir dessus, un cadre parisien qui travaille, en télétravail, qui a les transports en commun à Paris, ne vit évidemment pas les ZFE comme un artisan, une aide-soignante, un salarié qui peut être mené à faire parfois 40 km par jour. Est-ce que donc ce débat il révèle aussi un sorte d'angle mort social des politiques écologiques?
Bien sûr, et c'est pas pour rien qu'on parle d'écologie punitive. C'est-à-dire que c'est vrai pour les ZFE, c'est vrai aussi pour l'augmentation des taxes, par exemple sur le diesel. On l'oublie, mais c'est François Hollande. En 2017, c'était la loi sur la transition énergétique qui prévoyait une augmentation progressive... 2015, pardon. Une augmentation progressive des taxes sur les énergies et le diesel en particulier, ce qui a conduit à la fameuse j'écris des gilets jaunes en 2017. Donc on est vraiment dans cette écologie punitive faite par des urbains, pour les urbains au nom de l'écologie, mais derrière en fait il y a une vraie question de ségrégation sociale. Je prends un autre exemple. L'interdiction des vols intérieurs ou la surtaxation des billets pour les vols moyens long courrier. Je pense qu'il y a une justification écologique derrière ça, mais derrière, il y a l'idée que finalement, le tourisme de masse, s'agissant des vols long courrier, devrait être réservé à une petite élite. Et il y a une sorte de dégoût qui est une classe moyenne, qui est d'ailleurs en déclassement, qui atteint les mêmes niveaux de loisirs que la classe supérieure. Donc méfions-nous aussi de l'enrobage écologique, parce que derrière, il peut y avoir une vraie volonté de ségrégation sociale.
Oui, mais c'est sûr.
Oui. Et ben, donc, est-ce qu'on peut défendre la qualité de l'air sans exclure socialement une partie des automobilistes?
Oui, mais simplement, il ne faut pas le faire de manière bureaucratique. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu... Enfin, c'était un des arguments des promoteurs des ZFE qui disait « Mais regardez, les ZFE ont un effet positif sur la pollution de l'air. » Étant entendu que les ZFE, concrètement, ne sont pas contrôlés, ne sont pas respectés, donc je vois pas très bien comment un dispositif qui n'est pas encore vraiment en œuvre peut avoir des effets positifs. Et en réalité, alors, il y a une corrélation entre la date de mise en service des ZFE et l'amélioration de la pollution de l'air. Bon, mais qui dit corrélation ne dit pas causalité. Et en fait, il y a un renouvellement naturel du parc automobile avec des améliorations techniques du parc automobile, et je pense que c'est là qu'il faut regarder. Alors non pas, et ça c'est un autre sujet, en interdisant... les voitures thermiques, ça, vous savez qu'on s'est battu contre ça parce que ça pose des problèmes industriels, parce que ça pose aussi des problèmes de pouvoir d'achat, hein, parce que pour l'instant, acheter une voiture électrique, même d'occasion, ça coûte extrêmement cher, c'est pas forcément économiquement un bon calcul, même si ça commence à venir. Hein. Donc laissons un peu les industriels proposer aussi des automobiles plus propres, et ensuite, j'ai envie de dire, les lois du marché feront le reste.
Mais exactement, il y a une forme de, un peu de déconnexion, vraiment une déconnexion sociale dans le débat, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de changer de voiture comme ça. Alors justement, on va revenir sur le côté un peu industriel, on va juste rappeler aux auditeurs que les ZFE sont quand même sont les zones à faible émission, ce sont des secteurs où les véhicules les plus polluants sont progressivement interdits, selon des vignettes critères qu'on doit demander, qui sont c'est présenté comme une mesure de santé, mais finalement ça a plus un aspect d'écologie punitive que finalement une mesure de santé réellement. Pour revenir sur le côté justement industrie, puisque il y a ce problème aussi est-ce qu'il n'y a pas une énorme contradiction finalement à pousser les Français à changer rapidement des véhicules, alors qu'en fait toute l'industrie automobile européenne traverse déjà une période qui est extrêmement difficile.
On a une grosse crise effectivement de l'industrie automobile et on le voit avec notamment ces partenariats qui sont faits par les industries européennes et françaises en particulier avec des Chinois. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que la filière automobile est en train de prendre la même voie qu'a pris la filière électronique en Europe. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une production européenne. Ensuite, les Chinois sont devenus mieux-disants que nous d'un point de vue technologique, et ça commence à être le cas pour les automobiles. On sait qu'en matière de voitures électriques, ils ont des batteries qui sont techniquement meilleures, qui sont à plus bas prix. Technologiquement, ils ont pris de l'avance sur nous. Et donc, vous avez une phase transitoire, là, on y est, dans laquelle on est un peu les assembleurs des Chinois. Et on est là à espérer qu'il y ait un transfert technologique, non pas... Enfin, on n'est pas là à craindre le transfert technologique de l'Europe vers la Chine, mais à espérer un transfert technologique de la Chine vers l'Europe. Et face à ça, malheureusement, on a une Commission européenne, des décideurs européens qui, pour l'instant, prennent des décisions politiques et idéologiques, avec l'interdiction des voitures thermiques en 2035, ce qui signifie un effondrement de la production européenne, avec des quotas CO2, ce qu'on appelle aussi des ETS2 dans l'afro-jargon, c'est-à-dire des taxes sur les industries qui sont considérées comme polluantes, et évidemment l'industrie automobile en fait partie selon ces critères, et puis des normes techniques qui sont, j'ai envie de dire, qui mettent nos industries européennes en situation de concurrence déloyale vis-à-vis de la Chine. Donc voilà, il faut pas être naïf, il faut choisir surtout. Mmh. Est-ce qu'on veut faire partir l'industrie automobile parce que c'est polluant, ou est-ce qu'on veut être concurrent vis-à-vis des Chinois, ce qui signifie abandonner ses interdictions, se mettre au niveau des normes, investir publiquement sur notamment la production française et européenne de batteries. C'est en cours, tant mieux. J'ai envie de dire qu'il faut aller plus loin, mais c'est un peu tard.
Oui, mais quand on demande à des millions de Français de remplacer leur voiture, ouais, est-ce qu'on mesure réellement le coût économique que ça représente pour les ménages ?
Mais encore une fois, c'est qui demande ? C'est-à-dire que soit ça provient des pouvoirs publics, et à ce moment-là, globalement, c'est une mauvaise idée, soit c'est la loi du marché qui finit par proposer des véhicules, notamment sur le marché secondaire, et on sait que le marché secondaire sur les véhicules électriques n'est pas encore mûr, et à ce moment-là, ça devient un calcul économique. Et ce calcul, j'ai envie de dire que les gens à faible pouvoir d'achat commencent à le faire, notamment sur les hybrides d'occasion, commencent à calculer avec les prix des carburants qui augmentent et qui augmentent de façon durable. Ils commencent à faire leurs calculs, mais c'est comme ça qu'on s'en sortira, et certainement pas avec des obligations ou des interdictions de centre-ville. Voilà, faut laisser faire le marché, et la place des pouvoirs publics, c'est d'aider ce marché européen et français à émerger et à proposer des solutions peu chères.
Alors, pour revenir justement sur le côté plus européen justement, ouais, de cette affaire, est-ce que les ZFE sont aussi à conséquence finalement de normes et d'objectifs européens qui finissent finalement par s'imposer complètement aux États et maintenant jusqu'aux collectivités, ouais. Est-ce que les gouvernements nationaux ont encore finalement réellement une marge de manœuvre, ou est-ce que beaucoup de décisions viennent maintenant complètement du cadre européen ?
Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. On nous a dit, en gros, enfin surtout la partie souverainiste pure et dure, nous a dit en gros, vous pouvez pas supprimer au niveau national les ZFE, ce qui est faux. En fait, les directives européennes donnent des objectifs de pollution sur les grandes villes, mais ne donnent pas un objectif de moyen. Donc il se trouve que en Europe, vous avez un certain nombre de villes qui ont mis en place des ZFE, mais c'est pas la seule manière de faire pour arriver à l'objectif. C'est-à-dire que l'objectif est contraignant, mais on n'est pas obligé de passer par les ZFE. Encore une fois, soyons, comme disent certains à gauche, techno-solutionnistes, c'est-à-dire face aux problèmes environnementaux, ici, problème de pollution, faisons confiance dans la technologie, dans le renouvellement du parc automobile, et avec des incitations des pouvoirs publics pour le renouvellement de ce parc automobile, et surtout pour aider les industries européennes à reproduire en Europe et à proposer des offres peu chères. Voilà.
Alors, pour revenir un peu plus sur le... Là, on était au, ouais, niveau européen. Pour revenir plus sur le côté, sur les collectivités, sur les mairies, Alice Meunier.
Oui, alors le gouvernement a évoqué l'idée de laisser plus de liberté aux collectivités locales. Et pour vous, est-ce qu'une vraie décentralisation ou simplement une manière de sauver politiquement une ZFE Ou faut-il laisser chaque ville décider librement de maintenir ou non une ZFE selon ses critères?
Non, ça c'était effectivement la proposition du gouvernement de dernière minute pour essayer de sauver politiquement les ZFE. Ça me paraît une très mauvaise idée. D'ailleurs, on avait voté contre l'amendement du gouvernement sens. Parce que on n'est pas au Moyen-Âge, quoi, et on peut pas laisser des collectivités laisser le droit d'entrer ou de sortir chez elles avec des taxes, avec des avec un système assez moyenâgeux. On reste un État, j'ai envie de dire assez jacobin, mais ici dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une égalité de traitement de tous les citoyens sur le territoire. C'est le rôle aussi de l'État de le garantir. Hein. C'est pas aux collectivités de faire leur petite loi dans leur coin. Donc non, certainement pas.
Alors il nous reste quelques minutes encore d'entretien. Voilà, je voulais juste revenir un peu sur la suite maintenant. Comment ça va se passer pour la suite? Alors concrètement maintenant, est-ce qu'il existe encore un recours politique ou juridique possible après la décision du Conseil constitutionnel ou...
Eh non, on ne peut pas faire de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel. On peut juste noter d'ailleurs au passage qu'il y a 3 membres du Conseil constitutionnel qui ont pris part à cette décision, qui étaient partie prenante. Ce qui pose quand même un souci, parce que 3 membres avaient été parlementaires et ont voté pour les ZFE à cette époque-là. Bon, ceci étant passé, maintenant la solution peut être que politique. Donc on a demandé à Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée une proposition de loi ou un projet de loi sur les ZFE pour qu'on puisse trancher définitivement, parce que normalement son rôle c'est de faire respecter le pouvoir des parlementaires, et dans cette histoire le parlement s'est fait marcher dessus par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire des gens élus qui se sont fait marcher dessus par des gens qui sont non élus. Bon, on imagine que Yael Braun-Pivet ne fera rien puisqu'elle est elle-même favorable aux ZFE. Et après, j'ai envie de dire que c'est les élections présidentielles qui approchent, hein. Donc en l'occurrence nous on le met dans notre programme, enfin j'ai envie de dire que politiquement, il faut espérer, il faut faire monter la sauce hein, sur ce sujet précis. C'est-à-dire qu'on espère qu'il y a un maximum de partis qui proposent ça dans leur programme. On le propose et on le fera par voie d'ordonnance. Vous savez qu'on a promis des ordonnances de simplification en début de mandat pour simplifier la vie économique. Donc nous, on considérera qu'il y a bien un lien direct entre ces ZFE et la vie économique. Donc c'est évident que si elles ne sont pas supprimées d'ici là, ça fera partie des ordonnances hein, de simplification. Étant entendu que, parce que qui dit ordonnance dit peu de débat, mais enfin le débat on l'a déjà eu quoi. Donc...
Justement à ce sujet.
Oui, donc vous, le RN, en général, vous comptez redéposer rapidement un texte spécifiquement consacré aux ZFE pour éviter cette fois l'argument du cavalier législatif?
Alors, on l'a déjà fait, et ce depuis d'ailleurs 2022. On l'avait, c'était notre première niche d'ailleurs parlementaire. Enfin, c'était le deuxième texte de notre première niche parlementaire. Bon, donc ça montre le degré de priorité qu'on a mis là-dessus. Il y a à nouveau une proposition de loi qui a été posée, mais avant d'ailleurs votre suppression. Il n'appartient qu'à Yael Braun-Pivet, à la conférence de président, de le mettre à l'ordre du jour. Donc j'ai envie de dire, techniquement, nous, les choses sont prêtes. Maintenant, il ne tient qu'aux instances de l'Assemblée de l'inscrire à l'ordre du jour. Et ça, on n'a pas la main là-dessus.
Et alors, concrètement, donc, vous avez un peu évoqué le sujet, mais si le Rassemblement national arrivait au gouvernement, arrivait au pouvoir en 2027, est-ce que justement vous engagez clairement justement à abolir les ZFE?
Sans problème, ZFE. Loisanne aussi, parce que ça, alors c'est un peu moins, on va dire, grand public, le zéro artificialisation nette, qui empêche, alors c'est moins grand public sauf pour les élus locaux, puisqu'on sait que ça bloque le foncier, notamment pour le développement économique, aussi pour la construction de logements, donc ça bloque beaucoup de petites communes rurales pour le développement de leur territoire. Ça faisait pas. Alors, il y a eu un assouplissement, donc, pour sa suppression sèche, hein, la Loisanne. Il y a eu un assouplissement dans cette fameuse loi, et ça a été aussi censuré par le Conseil constitutionnel pour le même motif. Donc, ça, dans la simplification de la vie économique, on mettra les ZFE, ça n'a pas de problème, hein, dans les ordonnances, mais le gros de ces ordonnances, ce sera en fait la suppression de la Loisanne. Hein. Pour la simplification de la vie économique, ce sera un très gros sujet.
Voilà. Ouais, c'est intéressant, on pourrait même en faire nous-mêmes un sujet. Et alors, il nous reste 2 minutes. Ouais. Le risque, si vous supprimez totalement ces ZFE et c'est tout ça, c'est justement d'être accusé donc, d'abandonner toute politique de qualité de l'air, etc. Donc, quelle serait en fait votre alternative?
Bah encore une fois, l'alternative, c'est de reproduire en France et en Europe et de soutenir la filière électrique et non pas en faire une obligation. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique et surtout le rôle de l'État, ça n'est pas de faire de la planification soviétique, que ce soit au niveau français ou européen. Donc il faut déjà sauver ce qui est possible de sauver dans nos industries européennes. Ça passe par écarter l'interdiction 2035, la vente de voitures thermiques, parce qu'on sait que ça fait effondrer la production française européenne, et on a des usines qui actuellement tournent à moitié à vide à cause de ça. Voilà. Et puis soutenir une filière française et européenne de l'électrique. Et j'ai envie de dire aussi peut-être soutenir le marché d'occasion. Le marché d'occasion, parce que vous savez que pour l'instant, le marché d'occasion est assez cher. Il faut trouver un point de maturation, mais de toute façon, ça finira par venir d'ici 4-5 ans. Donc, c'est pas la peine de se lancer dans les grandes lois d'interdiction et d'obligation. Le marché trouvera sa maturation. Le sujet, c'est vraiment la souveraineté de la production française et européenne.
Bah, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
J'ai eu un peu chaud, là. Je suis désolé au départ.
Bah non, y a pas de souci.
Pour les spectateurs, je suis venu un peu en courant.
Voilà. Y a pas de souci. Mais merci beaucoup,
merci
en tout cas. Et on espère que tout ça se passera, donc comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, donc Mathias Renaud, qui est député Rassemblement National dans la Somme. Merci, merci beaucoup.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, dans 12 minutes, ce sera l'analyse de Xavier Van Lierde, et puis après la chronique d'Éric Doutrebente, puis encore après, ce sera la revue de presse de Gilles Brochard. Mais tout de suite, je laisse l'antenne à Louis Rigaudière, qui va nous faire la chronique que vous attendez tous.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.